Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Je suis très heureuse de vous retrouver en ce dimanche soir. Bienvenue à vous sur cette libre antenne qui est la vôtre. Comment trouver quelqu'un à qui parler quand tout va mal? Lorsque le poids de la vie devient trop lourd, lorsque la détresse nous envahit, lorsque nous ne savons plus que faire, quoi penser ou que dire pour reprendre contact avec la source de la vie, nous aimerions trouver une personne qui nous écoute simplement, avec un peu de patience et de bienveillance, pour que nous puissions vider notre sac et repartir d'un pied plus assuré. L'écoute réciproque est un apprentissage de la parole juste et de l'écoute bienveillante qui nous permet de retrouver notre liberté intérieure et de diriger notre vie avec toutes nos capacités. Elle s'appuie sur la conviction que ce qui sauvera notre humanité en nous n'est pas un savoir intellectuel, ni une manipulation psychologique, ni une révélation miraculeuse, mais le chemin patient de la parole donnée et reçue dans une relation positive. Et c'est extrait du livre d'André Gros Mollard, « L'écoute réciproque ». Et je trouve que ça colle parfaitement à l'esprit de cette libre antenne. Libérez les mots MAUX qui sont à l'intérieur de vous en les exprimant par des mots MOTS. Venez me rejoindre dans ce studio pour que nous puissions parler. Amandine et Hassan attendent vos appels au 3921. Vous savez que vous pouvez aussi participer par SMS au 73921 en commençant par le mot nuit. À la réalisation ce soir, je retrouve avec plaisir Fabrice Fougerouze. Et la libre antenne, ça commence donc maintenant.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1, Sabine Marin.
Et ce soir, on va ouvrir cette libre antenne avec Marlène qui se fait du souci pour son petit-fils. Elle nous explique pourquoi dans un instant. Et chose promise, chose due, c'est avec vous Marlène qu'on entame cette soirée de libre antenne. Bonsoir Marlène. Marlène ?
D'accord. Voilà, je vous parle de ce qui m'est arrivé dimanche.
Alors dites-moi, racontez-moi.
Alors, on est allé à un challenge dans un petit village à côté de chez nous parce que mon petit-fils qui a 5 ans avait du judo, une petite rencontre, voilà. Mm-hmm. Et arrivé dans ce grand stade, il a commencé à dire « j'ai peur ». Et après, il n'a pas voulu mettre son kimono, et les grosses larmes chaudes, mes grosses larmes. Alors son maître est arrivé, il lui a dit « Alors, comment tu t'appelles ?» Il a blagué, il a bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, bien sûr. Mmh. Et puis, ben, il a essayé de le motiver, tout le monde a essayé. Ma fille, elle m'a dit « Écoute, si tu es stressée, tu vas faire un petit tour dehors. » Enfin, un tour dehors. Et puis, ça n'a rien arrangé. Ça n'a pas eu lieu. Et on s'est retrouvés tous les trois dehors. Voilà, parce que
tous les
pas
trois,
moyen.
Vous étiez avec votre fille et votre petit-fils, d'accord, c'est ça?
Oui, voilà.
Son papa n'était pas là?
Et non, et ça fait 2 mois qu'il n'est pas là, son papa.
Ah. Mmh. Alors racontez-moi un peu l'histoire de ce petit garçon, justement.
Ce petit garçon, ben, je trouve qu'il est toujours très seul parce que ben, ma fille et mon gendre se sont séparés et son papa est à Paris et nous on est en province. Et bon, je sais que ça va à Noël, là, il va aller à Paris, mais ben, ça tombait mal, ce challenge tombait mal. Voilà, je sais pas, ça. Alors, il est très timide, très.
Alors j'allais vous demander, est-ce qu'il a toujours été comme ça ou est-ce que c'est depuis qu'il y a le divorce de ses parents? Est-ce qu'il a un tempérament timide comme ça depuis qu'il est tout petit?
Ça n'a pas été toujours comme ça. Ça n'a pas été toujours comme ça. Il était bien, il était super bien. Et puis à la séparation de ses parents, je l'ai senti et je pense qu'il a fait une dépression. Si jeune, il a fait une dépression.
Alors ce que j'allais vous dire, Marlène, c'est que la timidité vient souvent d'une blessure de rejet. Oui. Et quand il y a un divorce des parents, l'enfant se sent rejeté, bien sûr.
Exact.
Et très souvent, par protection inconsciente, l'enfant devient timide. Parce qu'il a tellement peur d'être rejeté qu'il finit par se rejeter lui-même du monde extérieur.
C'est un peu ça, oui.
Maintenant, on va d'abord peut-être juste se concentrer sur cette histoire de judo avant de parler d'élargir un petit peu les choses. Est-ce que c'est un sport qu'il avait demandé à faire, ce petit bonhomme ?
Oh ben non, à cet âge-là, enfin, on leur propose et puis des fois ils disent oui, des fois ils disent oui, enfin ils disent oui quoi. Et
oui,
puis après,
oui, c'est plus un jeu en fait pour l'instant à cet âge-là.
Ça se passe bien le lundi et le jeudi, c'est moi qui le mène après la classe, hein, ça se passe très bien. Mais le fait d'être allé le dimanche matin de bonne heure, parce que c'est pas un matinal non plus, il est très lent. Alors, aussi, quand il est très lent, ça veut dire qu'il n'est pas très motivé. Mais là, ce dimanche matin, mon Dieu, mais alors voilà, excusez-moi, je suis un peu confuse.
Non, c'est très clair.
Dans cette détresse-là du dimanche matin, on était il pleurait. Alors, on y va, Et là, il a dit « Papa !» Mais vraiment, dans une crise de larmes chaudes, il a dit « Papa !» Vous voyez.
Il avait un besoin d'être sécurisé par son papa.
Oui, il avait besoin. Et pourtant, on n'a pas été violente, on n'a pas été méchante, on l'a pas obligé, on l'a pas forcé. Vous savez, on lui proposait, on lui a tous proposé des choses.
Je vous ai pas posé la question. Vous êtes la maman de sa mère.
Oui.
D'accord.
Oui.
Donc vous auriez pu être la maman du père aussi.
Non.
D'accord,
c'est
donc c'est votre genre.
C'est ma fille,
d'accord.
Oui.
Et c'est pour ce petit bonhomme, est-ce que c'était la première compétition? En tout cas, la première. Ah, voilà aussi, c'est ça.
Oui, oui. C'est vrai que de sortir de son petit club et de venir dans ce grand stade, vous savez, où il fait froid, où il y a du bruit, où on n'entend rien, en fin de compte, je pense que ça l'a impressionné.
Il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'un enfant timide est souvent un enfant qui a un désir de bien faire. Et qui, comme il a peur de ne pas bien faire, du coup, manque de confiance.
Oui,
Ça peut venir aussi de cette histoire de divorce. Vous savez que souvent, quand les parents divorcent, les enfants, inconsciemment, se disent que c'est de leur faute. Ils se disent qu'ils ont sûrement fait quelque chose qui n'allait pas, sinon papa, il ne serait pas parti.
Mais souvent,
si c'est très loin de la réalité, bien sûr.
Oui, souvent, je vais vous dire une chose. Ce petit fils, il est très attaché à moi. Et quand sa maman vient, sort de son travail et vient le rechercher, il dit « Non, pas toi, je te veux pas. Non, pas maman. » Et moi, je suis très gênée.
Mais probablement pour lui, vous êtes une source de stabilité dans tout ça.
Ben oui,
par rapport
tant mieux.
Au couple de ses parents, mamie, elle ne bougera pas, elle ne partira pas, mamie. Quoi.
Oui. Mais bon, je me fais beaucoup de soucis parce que c'est bien d'un côté et c'est pas bien de l'autre, vous voyez.
C'est peut-être transitoire aussi, le temps que les choses se rééquilibrent.
J'espère.
Mais sur la timidité, ce qui se passe forcément, c'est qu'il y a une partie de lui qui doit probablement vouloir plaire, et une autre partie de lui qui est persuadée qu'il ne va pas être à la hauteur.
Et du coup,
je vais vous aider un petit peu après. Du coup,
Merci.
Il se retire, il est dans l'évitement.
Ouais.
Donc la première chose à faire, c'est faire très attention à ce que vous dites devant lui. Parce que dans cet état de fragilité, tout ce que vous pouvez dire de négatif, vous ou d'autres adultes, ça s'imprègne fortement dans sa tête.
Oui.
Une remarque d'un coach, une remarque d'un petit copain, un mot désagréable. C'est extrêmement puissant ces mots-là, donc il faut vraiment éviter tout ça. Demandez-lui ce qu'il ressent à ce moment-là. Prenez le temps de l'écouter, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Vous savez, il y a des parents qui disent « Oui, mais je t'ai acheté le kimono, je t'ai payé l'inscription,
non,
tu changes d'avis tout le temps,
ah,
etc. etc. » Donc,
on peut comprendre ça,
il y a des parents qui insistent un petit peu.
On peut comprendre, oui.
Mais prenez le temps de lui demander tout simplement « Qu'est-ce qui se passe là dans ton cœur tout de suite? Qu'est-ce que tu ressens? Pourquoi tu es en panique? Qu'est-ce que c'est ces larmes-là »
Ah oui, c'était terrible.
Prends le temps de l'écouter, ça c'est la première chose à faire. La deuxième, lui expliquer que dans la vie, il a une note ou un résultat, comme au judo, il n'est pas une note ou un résultat. Il y a une sacrée différence avec ça. Il a un résultat, il n'est pas un résultat. Et il a le droit de se tromper.
Oui, voilà, oui, absolument.
Il faut vraiment lui apprendre ça. Vraiment, c'est important pour les enfants de comprendre ça.
Oui, on lui a dit, écoute, si tu ne veux pas, si ça ne veut dire rien, c'est pas grave. Mais voilà.
Pardonnez-moi d'insister là-dessus, mais « c'est pas grave » est une formule négative.
Ah d'accord, oh là là.
Je vous rappelle que notre cerveau ne comprend pas la négation. Si je vous dis « ne pensez pas à un éléphant bleu », la première image mentale que vous faites, c'est un éléphant bleu. Si je vous dis « n'ayez pas peur », vous entendez peur.
Oui.
Quand on dit à un enfant « c'est pas grave », utilisez plutôt des formules positives, ça va aller. C'est bien comme ça, c'est ok comme ça. C'est des petites choses, mais si vous saviez comme ça une importance sur le long terme.
Oh, ben oui, justement, on voudrait pas, voilà, on voudrait que ça s'arrange.
Et moi, je trouve qu'il a beaucoup de chance d'avoir une grand-mère qui s'inquiète pour lui comme ça et qui cherche à l'aider. C'est formidable, ça, vraiment.
Oui. Non, mais quand j'ai vu ce petit-fils...
Dans tous ses états.
Dans tous ses états, et puis ma fille aussi. De toute façon, ma fille me dit, c'est pas possible... Ne baisse pas les bras. Voilà. Enfin, à toutes les deux, on ne disait pas grand-chose, mais on souffrait que tous les trois.
J'entends bien. Puis la période est douloureuse pour tout le monde. Mais utiliser vraiment des formules positives. Ça me va, c'est ok comme ça, tu as le droit. Dites-lui bien que vous êtes à son écoute. Demandez-lui simplement avec ses mots à lui, qu'est-ce que tu ressens là tout de suite? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur?
Et on peut en parler après? Ah, pour ne pas...
Bien sûr, vous pouvez en parler après. Du moment que c'est fait de façon positive et qu'il sent qu'il n'est pas jugé, qu'il est là, que vous êtes là pour le comprendre, c'est important. Lui expliquer aussi, il y a un petit truc pour les enfants de cet âge-là qui sont vraiment timides, c'est de lui instaurer une bulle invisible autour de lui. Lui dire, voilà, partout où tu vas aller, où tu te sentiras un petit peu timide comme ça, à l'école, au sport, n'importe où, tu peux imaginer que tu as autour de toi une bulle, une belle bulle. Et puis vous pouvez jouer avec son imagination. Vous pouvez lui demander, alors pour toi, quelle taille elle aurait cette bulle? D'accord. Et puis, quelle couleur elle aurait, cette bulle? Comment elle serait exactement? Ta bulle de protection. Et dans ta bulle de protection, il peut y avoir ce que tu veux. Il peut y avoir un doudou, je ne sais pas s'il a encore un doudou.
Oui,
il
y en a encore.
Il peut y avoir ton doudou, il peut y avoir un ange gardien, il peut y avoir un ami invisible, quelqu'un qui te soutient, qui t'encourage. Et vous pouvez lui créer quelque chose comme ça. Vous savez, les enfants à cet âge-là, ils sont tout le temps dans leur imaginaire et ça peut beaucoup les aider aussi.
Oui, parce qu'il est dans son imaginaire, c'est fou. Hein.
Ben, comme beaucoup d'enfants.
Oui.
Et donc, vous pouvez l'aider à créer ce qu'on appelle la bulle magique. Une bulle de protection. Ça, c'est important aussi.
Bon.
Maintenant, pour reparler un peu du contexte familial,
oui.
Qu'est-ce qui s'est passé entre son papa et sa maman?
Je ne sais pas. Ils se sont séparés. En revenant de vacances, ma fille m'a dit, tu sais, on se sépare. Voilà. C'est et tout.
Sans autre explication?
Non, on n'est pas très bavarde, ma fille et moi.
Et est-ce que le petit vous en a parlé de ça?
Oui.
Qu'est-ce qu'il vous a dit avec ces mots à lui?
Elle m'a dit, j'ai deux maisons maintenant. Pas grand-chose, mais enfin, c'était quand même... Et je vous assure, quand on est allé se promener un jour, et je lui disais, tu vois, là, il y a des cerfs, il y a des moutons. Je m'en fous des moutons. Vous voyez, ça m'a... Et il ne parlait pas. Lors de cette promenade, il ne parlait pas. Et ma fille ne parlait pas. Et j'essayais de le... Et non, ils restaient l'un derrière l'autre ou l'un devant l'autre, mais pas ensemble. C'était douloureux, cette promenade. Il y a un an et demi de ça. Et j'ai senti qu'il s'était passé quelque chose. Je ne sais pas. Vous pensez que des fois, je me dis, mais ma fille, elle est un peu dure, hein.
Avec le petit?
Oui. Pas maltraitante, mais un peu dure dans sa façon, quoi, un peu rapide, un peu...
En même temps, vous savez, c'est très compliqué de se mêler la manière dont sa fille éduque son enfant. C'est le meilleur moyen d'avoir des problèmes derrière des conflits.
Oui.
C'est compliqué de dire... Enfin, je ne sais pas quelles sont vos relations avec votre fille, mais si vous lui faites part de vos doutes, faites-le avec beaucoup de bienveillance, parce que ça ne doit pas être facile non plus pour elle.
Oui, elle a du mérite. Elle fait tout. Elle travaille, elle fait tout. Elle rentre à 6h30 et le petit, il est à 8h15, 8h30, il est au lit. Voilà. Mais elle, elle a, oh là là, je la plains. Oui.
En revanche, dans cette histoire, vous avez un rôle important, effectivement, parce que vous êtes vraiment l'agent stable pour ce petit garçon.
Oui. Vous savez, ce sont mes rayons de soleil, tous les deux. Hein. C'est ma raison de vivre, moi, hein, à tous les deux. Hein. Ce sont tous mes moteurs, moi, hein, vous savez. Voilà.
Et vous
bien,
pouvez,
pas bien. Il y a des jours bien, il y a des jours pas bien. Voilà.
Vous pouvez lui dire à ce petit garçon aussi, sans chercher à extorquer des informations, à l'obliger à quoi que ce soit, juste lui dire, tu sais, je suis là, chérie.
Oui,
je suis là.
D'accord.
Sache que je suis là, je suis prête à t'écouter, je suis là pour toi. S'il y a des jours où tu as envie de me parler, tu me parles. Si tu n'as pas envie de me parler, je le comprends.
Mais je vous téléphone un peu pour ça parce que je me suis dit, mais peut-être que si j'avais été toute seule, le petit, eh ben, il serait allé. C'est pas un grief que j'ai, mais quand je le mène le lundi et le jeudi, je pourrais. Il est content. Il monte sur le trottoir, il me donne la main. Vous savez, c'est pas le même garçon.
Oui, mais là, il y avait trop de pression, je pense. Maman,
oui,
grand-maman,
oui.
Et en plus, la première, oui. Entre guillemets, je sais pas, oui. On va pas appeler ça une compétition à 5 ans, mais un challenge,
non,
quelque chose,
une
petite...
Oui, oui, oui,
en tout
oui.
cas, il y avait trop de choses.
Et puis, on peut remettre ça plus tard.
Mais surtout, lui expliquer qu'il a le droit.
Oui.
Essayez, posez-lui quand même la question, est-ce que vraiment il aime le judo, déjà? Est-ce que c'était juste un coup de calgon, comme on dit, ou est-ce que d'un seul coup, est-ce que vous savez, il change très vite à cet âge-là, hein.
Oui, d'accord.
Peut-être qu'il aime plus et qu'il n'ose pas vous le dire.
Il avait commencé le handball l'année passée. Et puis, 2-3 séances après,
C'est un grand, grand classique. Les enfants passent par plein d'activités, plein de sports. Ils se cherchent, c'est un peu normal aussi. Demandez-lui quand même vraiment s'il y a un problème avec le judo, peut-être qu'il n'ose pas vous le dire. Ou si c'était juste, effectivement, une espèce de panique parce que premier challenge, parce que peur de ne pas être à la hauteur. Et dans ces cas-là, il faut vraiment l'aider à travailler sa confiance en lui.
Oui. Et comment ça se passe, ça? Comment faire pour... Il n'y a pas, pas une clé, mais un remède, mais pour travailler sur la timidité à cet âge-là, comment faire?
Alors, je vais faire durer le suspense, Marlène, parce qu'on doit faire une coupure pub. Je vous reprends dans un instant.
Oui.
Ne bougez pas, à tout de suite.
Merci beaucoup.
Marlène, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Il y a quelque
Merci.
Chose, je pensais à quelque chose là pendant la pub.
Oui.
C'est une histoire que je raconte aux adultes, mais on peut l'adapter aux enfants.
Oui.
Pour les gens qui n'ont pas confiance en eux, vous savez, l'Arche de Noé a été construite par des amateurs, le Titanic par des professionnels.
Oui.
On peut adapter ça aux enfants aussi. Il faut simplement lui expliquer qu'il a le droit de ne pas être parfait. Mm-hmm. Et peut-être lui prendre des exemples. Je ne sais pas s'il a des idoles dans le foot, dans la musique, puis il est peut-être un peu petit pour ça.
Oui,
est-ce qu'il y a des
gens
qui... En tout cas, lui apprendre que tous les grands qui ont réussi dans tous les domaines se sont trompés plein de fois.
C'est vrai.
Et que le seul moyen d'apprendre, c'est de se tromper, sinon on ne peut même pas apprendre.
C'est vrai. Et puis il a toute la vie pour essayer.
Ensuite, à son petit niveau à lui, il faut voir par exemple s'il a des copains qu'il aime bien.
Et puis, c'est ça, justement. On est dans un village où on est depuis peu, parce qu'il a déménagé, voilà.
Mm-hmm.
Alors, ça y a fait, il n'a pas... à part à l'école, et voilà, mais à l'école, c'est il ne faut pas bouger. Enfin, je veux dire, ce n'est pas pareil qu'à l'extérieur ou pas pareil que chez lui. Chez lui, il n'y a pas de copains, il n'y a pas de voisins, vous voyez.
J'ai pas compris ce que vous m'avez dit à l'école. À l'école, ça se passe comment?
À l'école, c'est bien la maternelle, mais je veux dire, on est là pour apprendre, pour pas trop bouger, pour rester assis sur la chaise. Il a des copains, oui, mais dans la semaine, vous savez, après l'école, il a pas
D'accord.
de copains.
C'était pas ça en fait. Ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport à ses copains, pointer ce que lui a de mieux qu'eux et inversement. Pour expliquer que chacun est différent, il y en a peut-être un qui est meilleur que lui, j'en sais rien, en foot ou en dictée, à 5 ans, je ne sais pas s'ils ont commencé la dictée, ils commencent les petites lettres à écrire, peut-être les premières lettres, choses comme ça.
Les lettres, oui,
juste lui montrer que simplement dans la vie, voilà, il y a peut-être un tel qui est meilleur que toi dans ça, mais toi tu es meilleur là-dedans.
D'accord.
Ça lui permet aussi de gagner en estime. Et autre chose aussi à cet âge-là, c'est tous les jours, le complimenter.
D'accord.
Vous savez, j'en ai déjà parlé sur cette antenne, il y a un monsieur aux États-Unis qui est professeur, une classe d'enfants dit à problème,
oui.
dont même certains autistes.
Oui.
Pendant des années, les professeurs qui avaient eu cette classe n'avaient eu aucun résultat, satisfaisant en tout cas. Ce monsieur-là, il a fait un truc tout simple. Tous les matins, au lieu de faire l'appel, oui. il fait venir chaque élève au tableau et il lui fait un compliment, mais pas n'importe quel compliment, un vrai compliment pensé avec le cœur. Par exemple, à Alan, bonjour, toi tu es vraiment hyper gentil, toute ta classe t'apprécie pour ça, bravo. Etc, etc. À chacun, il dit quelque chose qu'il pense vraiment, quelque chose de positif et de gentil. Eh bien, en un an, il a eu des résultats que personne d'autre n'a jamais obtenus. Un enfant construit sa confiance et son estime de lui en le complimentant. Pas de manière démesurée ou pas sincère, mais vraiment sur quelque chose de vrai. Dès qu'il fait quelque chose que vous estimez bien, vous le pointez, vous le félicitez pour ça, vous lui faites prendre conscience à quel point il a de la valeur.
D'accord.
Mais à quel point il a aussi le droit d'être différent et de se tromper. C'est comme ça qu'on construit la confiance de quelqu'un.
D'accord.
En lui disant tout simplement, je suis fière
c'est
de toi.
Souhaite, hein. oui,
j'ai confiance en toi, je suis fière de toi. T'es un petit garçon formidable. Tout
c'est
ça,
vrai.
Ça va s'ancrer.
C'est formidable de toute façon, parce qu'il se donne tellement de mal, on le sent. Hein.
Ben on le sent.
Il se donne du mal pour être... Même quand il fait ses clowneries, quoi, je veux dire, il le fait parce que ça lui fait plaisir, mais il n'est pas méchant, cet enfant, il n'est pas méchant. Voilà, il est bien, bon, il monte partout, mais je veux dire, c'est pour se faire du bien à lui.
Il est vivant, c'est un petit garçon.
Voilà, absolument.
On préfère le voir comme ça, quand même.
Ah ben absolument.
Qu'à mort sur un canapé.
Ah non, voilà. Donc, bon, mais c'est bien.
Utilisez des formules positives, soyez à son écoute, encouragez-le un maximum et vraiment jouez bien votre rôle. Vous avez une place extrêmement importante pour lui en ce moment.
Oui. Ben, je vous remercie.
Il a de la chance de vous avoir.
Ben, c'est la vie, c'est la vie. Hein, voilà.
Je peux me permettre de vous embrasser, Marlène.
Mais moi aussi, je vous embrasse, Abil. Hein.
Bonne continuation avec cette jolie
famille. Et je vous écoute, et j'écoute vos collègues et amis. Je vous remercie, la Libre Antenne. Au revoir.
Merci à vous, Marlène. Au revoir.
Merci, au revoir.
Envoyez vos messages à la Libre Antenne d'Europe 1 en tapant nuit au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Et je vais faire maintenant la connaissance de Séverine. Bonsoir Séverine.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci.
De quoi est-ce que vous avez envie de parler ce soir?
Ben, je voulais vous parler de mon fils, qui a 19 ans et demi, bientôt 20 ans, et qui me pose beaucoup de soucis.
Oui.
Je suis maman toute seule avec 3 enfants, donc 2 plus jeunes filles. C'est un enfant qui est hyperactif avec déficit d'attention et un trouble du comportement. Il a une scolarité, on pourrait dire normale, et je l'ai toujours accompagné dans sa scolarité, accompagné dans les différents spécialistes jusqu'à l'année dernière. Là où il a été jusqu'au maximum de ce qu'il pouvait, pas intellectuellement, mais au niveau des autres et de, enfin voilà.
C'est-à-dire maximum, il est allé jusqu'où? Jusqu'au bac?
Non, il était en première service à la personne, mais le service à la personne ne lui convenait pas parce que il n'arrivait pas à toucher les, à prendre dans les bras les personnes âgées, choses comme ça. Le contact physique ne lui était pas permis, il n'arrivait pas au contact physique.
D'accord.
Et il se donnait pas la peine non plus, enfin il n'a pas mis en, il n'a pas mis tout ce qu'il fallait pour en mettre en place pour pouvoir, parce qu'il y avait pas dans sa personne, il n'y a pas que ça, il n'a pas mis tout ce qu'il fallait pour pouvoir avoir ses stages, donc sa première n'a pas été validée, il fallait qu'il redouble sa première.
Mais pardonnez-moi, est-ce que c'est lui qui a choisi cette voie ou pas?
C'est moi qui lui ai proposé, il a accepté, mais il n'avait pas d'autre, il n'avait aucune proposition. En seconde générale, il ne voulait pas le, il voulait réorienter dans une seconde bac pro, et lui n'avait aucune, ne savait pas ce qu'il voulait faire.
Aucune envie particulière.
Voilà. Ouais. Et donc le temps, enfin les mois, enfin les entre ce qu'ils ont, enfin au mois d'avril quand ils m'ont dit il faut lui trouver une solution, sans m'en proposer une, et lui me dit je sais pas ce que je vais faire, j'ai été comme très souvent la seule à essayer de trouver une solution.
Ouais. Vous êtes seule avec vos 3 enfants depuis le tout début?
Alors non,
comment ça
je
s'est
suis séparée du père de mes filles depuis 2015.
Donc lui a un autre papa, c'est ça?
Oui, un autre papa, et je suis séparée du papa depuis l'âge de ses 2 ans.
D'accord, donc lui a grandi quasiment sans son papa, mais avec le papa des filles.
Voilà.
Et là aujourd'hui, il n'y en a plus. Vous avez les 3 avec, toutes seules avec eux.
Voilà.
D'accord, ok.
Et j'ai un métier qui est assez particulier parce que je travaille depuis mon domicile je travaille, je travaille pas à domicile, tout le temps à domicile, mais je suis manager dans une société où en vente à domicile, donc je travaille beaucoup depuis mon domicile avec des plannings assez alambiqués, donc c'est un peu compliqué tout le temps de gérer tout le monde.
Oui, j'imagine.
Et j'ai mes filles qu'une semaine sur 2.
Et vos filles, est-ce que vos filles fonctionnent bien à l'école?
Ma première fille a des difficultés, mais s'accroche. Enfin, n'a pas du tout le même, n'a pas du tout le même tempérament que mon fils. Et là, depuis, donc déjà, quand il était au lycée, ça n'allait déjà pas. Enfin, je me fâchais régulièrement pour qu'il se lève le matin.
Il a été vraiment diagnostiqué hyperactif et trouble du déficit?
Ah oui, oui, oui.
Oui. À quel âge?
Ah oui, oui, oui. 7 ans.
À 7 ans, oui, d'accord.
Et il voit un psy tous les mois.
Donc vous avez comment dire...
Un traitement assez lourd.
Oui.
Il a un traitement assez lourd depuis très longtemps.
Vous avez maintenu le navire à flot jusqu'au bout, là, jusqu'à plus soif. C'est un peu ça que vous dites, là.
Je tiens toujours le navire à flot parce que tout pèse sur mes épaules. Hein. Il voit toujours son père, mais quand moi je dis « j'en peux plus, il faut cacher ton père » parce que de toute manière, le papa comprend ce que je vis, mais voilà, je dis « je ne sais pas quoi faire ». Donc, il attend que ça se passe.
Oui.
Il a toujours été passif. Hein. Le papa a toujours dit « moi, je vais être un père copain ».
Oui, c'est pas forcément ça dont il a besoin, votre fils.
Ah bah non, je
c'est
sais
pas
bien.
D'un copain, c'est d'une structure, mais bon.
C'est ça.
Ouais.
Et là, moi, j'ai dit, donc moi, je suis, enfin, j'ai tout, à peu près tout, essayé toutes les phases, au point, j'en ai dit, au jour d'aujourd'hui, je suis là pour te loger, je te loge, je te nourris, mais alors nous, on habite dans une campagne très, très, très isolée. Hein. Mmh. Donc, je te mets du gasoil pour te rendre là où j'ai besoin ou pour du travail, mais il n'y a pas de voiture pour des sorties, il n'y a pas de voiture pour autre chose que ce qui est nécessaire. Je ne te paye pas de cigarettes, je ne te paye pas de choses comme ça. Quand il était étudiant, je voulais bien parce que j'estimais qu'il n'était pas en mesure de pouvoir avoir un travail et pouvoir se payer ce genre de choses. Mmh. Maintenant, j'ai coupé tout, je ne lui donne pas un sou. Mais on est toujours dans le même. Enfin, moi, je l'ai fait travailler avec moi et je lui ai demandé d'avoir un travail qui est de son niveau. Je dirais qu'il n'a pas été capable. C'est peut-être fort comme de donner l'effort de travailler juste le minimum de ce que je lui demandais.
Comment est-ce qu'il se comporte avec vous?
Il essaye de me faire culpabiliser.
En vous disant quoi, par exemple?
Par exemple, ce soir, j'étais chez une amie, enfin un couple d'amis qui savent très bien ce que je vis. Je voulais annuler mon invitation. Il m'a dit, je lui ai dit, tu viens ou tu viens pas, parce que je ne lui refuse pas de venir manger avec nous. Sachant très bien qu'il ne serait pas en bonne position, il n'a pas voulu venir. Et il m'a répondu, amuse-toi bien, toi. Mmh. Et puis là, je lui ai dit que moi, je n'en pouvais plus en ce moment parce que je déploie une énergie pour lui. Je lui ai dit que maintenant, il était plus prioritaire dans mon énergie, que sa sœur qui vient de rentrer au collège est prioritaire, que mon travail, moi, j'ai besoin d'avoir de l'énergie pour mon travail, que c'est ça aussi qui était prioritaire, et que lui, il était plus prioritaire. Et il m'a dit, de manière, tu m'envoies chez papa, je vais avoir des problèmes, parce qu'il habite dans une jupe. Il me dit, alors je ne sais même pas si c'est vrai ou pas vrai, hein, peu importe. Hein. Je vais avoir des problèmes parce qu'ils vont m'embêter, parce que...
Mais vous le menacez de ça, mais vous m'avez dit que votre mari ne veut pas du tout le prendre à temps plein.
Ah ben quand je lui dis, je n'en peux plus, prends-le 8 jours parce que je n'y arrive plus, il accepte. Hein.
Oui, 8 jours, oui, mais là, quand votre fils dit, tu m'envoies chez papa, il entend quoi, quelques jours ou pour de bon?
Ah bah c'est au moins pour 8 jours, parce que de manière après, au bout de 8 jours, plus personne ne se supporte.
Ouais. Donc,
c'est retour à la case départ, mais moi, pendant 8 jours, ça me permet de souffler, quoi. Mm. Et de travailler correctement, et... Parce qu'au lieu de m'alléger, ne serait-ce que dans les tâches quotidiennes de la maison, si m'alourdis, je rentre, c'est un bazar sans fin, sachant qu'on n'est pas loin de la déchetterie plutôt qu'une chambre, il n'arrive pas à faire le minimum de ce qu'il devrait faire. Hein.
Comment ça se passe avec ces deux sœurs?
Ces deux sœurs sont très compréhensives. Au départ, elles m'ont dit, mais pourquoi tu cries tout le temps sur Nicolas? Enfin, pourquoi tu étais tout le temps après Nicolas Edouard? Et je leur ai expliqué que Nicolas Edouard, c'est pas possible qu'il se comporte comme ça pour telle ou telle raison. Et maintenant, elles disent rien. La petite est plus proche de lui. Et j'ai vu la plus grande un jour expliquer à une de ses copines, Nicolas Edouard, c'est pas de sa faute, il a une maladie au cerveau.
Oui, c'est un résumé un peu rapide, mais...
Oui, mais bon, elle a 10 ans, hein, donc...
Oui, c'est normal. Il faut que je fasse une courte pause.
Oui.
Séverine, ne bougez pas, je vous récupère dans un petit instant.
Merci beaucoup.
On va
beaucoup.
Continuer à parler de lui un petit peu. À tout de suite. Oui, Séverine, vous êtes là ?
Oui.
Oui, ça a été rapide.
Et puis, excusez-moi, tout en sachant, bon, je ne sais pas si ça a une importance quelconque ou pas, moi je suis bipolaire, diagnostiquée depuis plus de 20 ans, 25 ans maintenant. Mmh. Donc moi aussi, les choses me demandent un effort aussi à moi, donc les choses ne sont pas toujours faciles pour moi non plus.
Bien sûr.
Mais je prends sur moi et je demande à personne de me faire une faveur. Donc,
alors je pensais à quelque chose, vous me disiez qu'il ne fait rien à la maison. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à établir des règles ? En imposant certaines limites, en disant, écoute, voilà, il y a des choses qui sont acceptables, d'autres pas. Ta chambre, jusqu'à nouvel avis, elle est chez moi, donc ça n'est pas une porcherie, tu t'en occupes. Qu'est-ce qui se passe si vous faites
ça ? Parce que quand je suis pas là et que je lui demande, par exemple, de faire un certain nombre de choses, je n'étais pas là un matin, je n'étais pas là l'après-midi. Quand je lui ai demandé de faire 3 choses dans sa chambre, ces 3 choses-là n'étaient pas faites. Et je lui ai supprimé son ordinateur et son téléphone. Il n'y a rien qui a évolué.
Oui, alors c'est peut-être pour ça, si vous permettez, que je vous conseillerais de faire un peu autrement. J'entends que vous êtes une maman qui se bat depuis des années toute seule, que vous avez dépensé une énergie considérable pour que tout ce qu'on disait tout à l'heure, que le navire tienne à flot. Peut-être qu'il serait temps de lâcher prise. Juste un peu lâcher prise. Vous êtes épuisée, ça s'entend. Vous n'en pouvez plus.
Oui.
Mais oui. Vous avez le droit de pleurer, hein, Séverine, c'est normal, c'est humain.
Les gens à l'extérieur, ils croient que c'est parce que je le laisse faire. Ils touchent, mais il faut le bousculer. Le mettre au travail.
Les conseillers ne sont pas les payeurs dans ces cas-là. Moi, j'étais en train de me dire que pour une phase de transition, pour l'instant, il faudrait peut-être juste lâcher prise. Lâcher prise, ça ne veut pas dire laisser tout faire, bien sûr que non. Ça veut dire vous, déjà, vous occupez un peu plus de vous. Parce que j'ai vraiment l'impression que vous êtes très fatiguée. Et c'est normal. Vous le portez à bout de bras, ce garçon. En revanche, quand vous dites « j'interdis ça, je supprime l'ordinateur, je fais ça et ça », ça ne fonctionne pas. Donc si ça ne fonctionne pas, il faut penser à autre chose. Et autre chose, c'est peut-être dealer avec lui. De manière à lui dire « écoute, voilà, moi je suis prête à faire un geste, peut-être te payer tes cigarettes, ou je ne sais pas ce qu'il veut dans la vie, ce qui l'intéresse, mais en contrepartie, fais-moi plaisir, tu fais ça pour moi. » Essayez de trouver quelque chose où chacun fait un pas vers l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez d'essayer de faire ça ?
J'avais eu votre collègue qui m'avait dit, parce que moi, je lui avais dit, quand il recherchait du travail, je lui avais dit, il voulait travailler dans la vente. Je lui ai dit, mais Nicolas Edouard, la vente, ce n'est pas quelque chose qui est possible pour toi, parce que déjà, chez Tupperware, tu n'arrives pas à travailler avec moi, qui te connais très bien. Je ne te vois pas aller travailler dans une boutique traditionnelle avec quelqu'un qui ne te connaît pas. Enfin, et puis,
mais là,
et puis,
pardon, et puis, Séverine, mais vous lui coupez les ailes avant même qu'il essaye de s'envoler.
Mais avec, donc votre collègue m'avait dit laissez le faire. Moi je l'ai laissé faire.
Ben voilà.
Je lui, donc je dis vas-y, va. Mais il n'a pas fait un CV depuis. Il n'a pas fait une lettre de motivation et il s'est présenté nulle part.
Non, c'est pour ça que je vous dis attention. Lâcher prise, ça ne veut pas dire le laisser faire tout seul. C'est dealer avec lui, l'accompagner en sorte de partenariat en disant écoute voilà, si tu fais ça. Moi, je lâche prise sur ça. Si tu fais ton CV, je sais que ce n'est pas évident parce que ce n'est pas un comportement qu'on a normalement avec un post-ado responsable. On n'est pas face à ça. On est face à un garçon qui est en souffrance, qui ne fonctionne pas tout seul, qui est probablement en colère contre lui-même et contre les autres aussi de tout ce qui se passe, de tout ce qui lui arrive. Ce n'est pas évident à vivre non plus pour lui. Qui doit probablement sentir votre fragilité et votre souffrance à vous aussi. Vous êtes sa maman, c'est normal. Donc je vous dis simplement, lâcher prise, c'est pas laisser tout faire. C'est d'abord, s'il vous demande de faire quelque chose, par exemple d'aller dans la vente, ça, laissez faire. S'il se plante, eh bien il se plantera, c'est une expérience en plus pour lui. Mais si vous lui dites, dès qu'il veut faire quelque chose, c'est même pas la peine, tu n'y arriveras pas, ça c'est dur.
Non mais ça j'ai écouté votre collègue, enfin qu'il a la semaine, je ne me rappelle plus son prénom.
Sophie,
mais,
enfin si c'était Sophie oui.
Voilà, et je lui ai dit, j'ai remis un plat, je dis, écoute, je t'ai peut-être pas entendu, on est peut-être mal parti. Écoute, si tu veux aller dans la vente, il faut que, j'ai peaufiné avec lui son CV, je dis, on fait une lettre de motivation, et donc on a tout fait, et j'ai dit, maintenant, il faut aller démarcher les entreprises qui t'intéressent. Mmh. Mais il n'a jamais été au bout de la chose.
Et est-ce que si vous confiez cette tâche-là à son papa pendant une semaine, en disant voilà, tu vas chez papa une semaine et pendant une semaine vous vous concentrez là-dessus, vous faites ça tous les deux, qu'est-ce que ça pourrait donner ?
Ah bah, moi j'ai un peu de psychologie et lui, pour son père, il dit que c'est pas possible, qu'il n'y arrivera pas, que même lui, il n'y arrivera pas.
Oui, à force d'entendre ça, il ne va pas être motivé, ce garçon. Hein.
Voilà. Alors moi, j'essaye de me taire ce que je pense et lui donner la chance de faire ce qu'il veut. Mais alors son père, c'est...
Bon, alors on va oublier le papa sur ce côté-là, si j'ai bien compris. En tout cas, voilà. Vous dites faire ce qu'il veut, mais attention que ce ne soit pas faire ce que vous voulez. Par peur, je comprends bien que c'est pour le protéger. Mais laissez-le faire ses propres expériences de vie aussi.
Non, mais il là-dessus, pas je le laissais aller tout seul. Je me remets en question, et lui aussi. Hein.
Vous m'avez parlé tout à l'heure de cigarettes. Qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir ? Vous pourriez de temps en temps échanger contre quelque chose, contre un pas en avant, on va dire, pour débloquer la situation.
Ah ben, c'est ses cigarettes, parce que son problème est de...
Parce que vous m'avez dit, voilà, supprimer l'ordinateur à un gamin qui va avoir 20 ans, c'est pas une solution. Ça n'est que renforcer un conflit.
Oui, bah c'est tout ce que j'avais trouvé.
Parce que sur le moment, on est perdu dans ces cas-là. Mais je pense qu'il faut, il faut arriver à ça. C'est-à-dire, juste pour débloquer, c'est pas une attitude forcément sur du long terme, mais pour débloquer la situation, pour qu'il voit que bah voilà, vous cherchez une solution vous aussi, vous pouvez essayer de mettre en place des petits deals avec lui. Chérie, aujourd'hui, tu ranges ta chambre et moi, je te fais ça. Je t'offre tes cigarettes, tu fais ton CV avec moi, je t'aide, et puis tu sortiras, je ne sais pas ce qu'il a envie de faire et que vous lui interdisez de faire. Mais qu'il sente que voilà, il faut qu'il trouve un intérêt. Même si c'est bêtement matériel pour l'instant, mais qu'il y a un intérêt. Vous savez, c'est comme une canne que vous envoyez avec un petit hameçon. Il faut qu'il ait lui quelque chose au bout du hameçon. Sinon, là, il s'est enfermé dans un truc où il se fout de tout, quoi, visiblement. Il se fout de ce que vous dites, il se fout de la vie, il se fout de l'avenir, voilà. Et du coup, il vous donne l'impression qu'il n'y a plus prise. Quoi que vous fassiez, ça ne marche pas.
Voilà. Et donc, aujourd'hui, j'avais dit, aujourd'hui, on fait le ménage ensemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la seule journée où j'ai pu me reposer et j'ai dormi. Et il me dit, on devait faire le ménage tous les deux. Et je dis, oui, je sais, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je me suis reposée aujourd'hui.
Ah oui, mais vous voyez
parce
ce que ça prouve.
J'ai besoin aussi.
Ça, je comprends, mais ça prouve qu'il avait entendu que c'était important pour lui. Il n'en a pas profité pour vous dire, de toute façon, tu dormais, tant pis pour toi, je ne l'ai pas fait. Il vous a dit, on devait le faire ensemble.
Oui.
Donc, c'était important aussi, ça. Et dites-lui, ok, je te l'ai promis. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas pu, j'étais fatiguée, j'ai le droit aussi d'être fatiguée, mais on le fera. On le fera ensemble. Ou alors, tu le feras, et en contrepartie, pour te montrer que je suis contente de ça, que ça me fait du bien. Eh bien, moi, je vais t'offrir ça ou ça ou ça, ce qui lui fait plaisir. Qu'il trouve un intérêt pour le remotiver. Que vous soyez complice, maman est complice, et pas simplement dans la punition tout le temps. Parce que ça vous épuise. Et lui, de toute façon, vous voyez bien que ça ne marche plus. Hein.
Oui, oui.
Il n'y a pas grand-chose qui le touche dans les punitions. Hein.
En fait, au jour d'aujourd'hui, j'ai un ou deux amis. Quand il va chez eux, enfin, qui font du bricolage ou des choses comme ça, il leur dit, tu fais ça. Bon, il met plus de temps à le faire que d'autres, mais ça, c'est pas grave. Et il le fait sans rechigner.
Mais oui, il n'est plus dans le même contexte, c'est normal.
Mais ça marche particulièrement avec les hommes. J'ai l'impression qu'il est à la recherche d'une autorité masculine.
Bah, et oui, il ne l'a pas eu, forcément. Forcément. Ça, vous n'allez pas pouvoir lui pondre du jour au lendemain une autorité masculine.
Oui,
ça,
non, mais
vous ne pouvez pas y faire grand-chose, malheureusement.
Je sais que moi, j'ai l'impression qu'il m'a tellement entendue que ça glisse comme l'eau.
C'est pour ça que je vous dis que ça vous épuise. Si on veut garder cette image du robinet, plus vous coulez à flot, plus vous fatiguez, plus lui, de toute façon, il y a longtemps qu'il a appris à nager, donc il s'en fiche. Donc c'est pour ça que je vous dis pour l'instant, effectivement, est-ce qu'il y a quand même chez vous une figure masculine, un ami,
non.
Un voisin, un oncle ? Non, il n'y a pas ça. Quelqu'un qui pourrait...
Puis moi, je n'ai plus de famille et... Non. Je suis entourée de beaucoup de femmes. En plus, dans mon métier, il y a beaucoup de femmes. Donc
en tout cas, commencez déjà, s'il vous plaît, à mettre ça en place. Quelque chose qui serait comme un échange qui pourrait le remotiver. Pour qu'il comprenne que les règles ne sont plus les mêmes d'un seul coup.
Et du coup, il devait partir chez son père la semaine prochaine, à partir de demain. Est-ce que vous me conseillez quand même de l'envoyer chez son père
s'il n'en a pas envie, Séverine, sincèrement, non.
Non, il n'en a pas envie, aucune envie.
Eh bien justement, ça pourrait être un truc ça. Allez lui dire, écoute, voilà, j'ai bien réfléchi. Moi, ce que je veux, c'est que tu sois bien. Mais c'est donnant-donnant. Tu ne vas pas chez papa, mais on change les règles. C'est peut-être l'occasion de mettre les choses à plat comme ça aussi.
D'accord. Ben, puis, je vous remercie beaucoup.
Bougez pas, Séverine. On a Camille. Excuse-moi. On a Camille qui vient d'appeler en réaction et qui aimerait vous parler.
Merci.
Camille, vous êtes là ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir, Camille. Merci d'avoir
bonsoir.
Appelé. Qu'est-ce que vous voulez nous raconter alors ?
Oui, en fait, je rebondissais un petit peu pour par rapport à Séverine, c'est ça ? Voilà. Parce que j'ai eu un peu cette expérience avec un de mes fils qui était un peu perdu, qui ne savait plus ce qu'il voulait faire. Et donc, c'est vrai que du coup, les tensions montaient entre nous. Et c'était un peu difficile. Finalement, je lui ai déjà posé la question de savoir ce qu'il ne voulait pas faire donc, comme métier. Il voulait travailler dehors, dedans, les mains, dans un bureau, etc.
Bon. Il ne sait pas.
Et puis, nous sommes arrivés sur plutôt un travail un peu manuel. En plus, je l'encourageais parce que ce sont des filières qui prennent beaucoup. Il y a des choses intéressantes. Et
vous avez fait par élimination, finalement.
Exactement. Je lui ai dit, d'abord, qu'est-ce que tu veux pas faire ? Est-ce que tu veux travailler à l'intérieur, à l'extérieur, dans un bureau ? Est-ce que tu as envie d'être indépendant ? Est-ce que tu... Voilà. Donc, on est arrivé un peu plutôt dans le travail un peu manuel, en plus... Donc, je l'ai envoyé, j'ai trouvé quelqu'un qui me l'a pris pendant un mois pour qu'il voit ce que c'était chez un menuisier biniste. Et donc, ça lui a plu. Et donc, ensuite, on est allé voir les compagnons du devoir, un tout petit examen, qui l'ont pris. Et là-bas, du coup, il a trouvé la rigueur, un milieu très masculin, ce qui changeait un peu de ce qu'il avait vu à l'école et à la maison. Et finalement, ça a été une façon un petit peu de le rééquilibrer. Donc, en fait, voilà, c'était juste un peu pour vous donner ma petite expérience. Mmh. Voilà. Et ça a été ma façon d'essayer de le remettre un petit peu sur le chemin.
Oui, mais est-ce qu'il y aurait ce genre de choses du côté de chez Séverine ?
Non, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il ne sait pas ce qu'il veut faire. Même quand lui propose plein de choses. Et même, j'ai un ami qui est plâtrier peintre, qui lui a proposé de venir comme un stage chez lui. Il lui a dit « Oh, bah, tu sais, moi, je ne suis pas trop manuel. »
Non, mais là, je pense qu'il est en période de blocage. Séverine, merci Camille de votre appel.
Oui.
Merci beaucoup.
Écoutez, voilà, moi, c'était juste
Mais je retiens votre façon
personnelle.
Peut-être que par la suite, ce sera peut-être une autre...
C'est ce que j'allais vous dire. Pardonnez-moi, mesdames, j'accélère un tout petit peu parce qu'il y a les infos qui arrivent. C'est ce que j'allais vous dire.
Bon.
Merci Camille, Séverine. En fait, je crois que
Bonne
c'est juste
soirée.
Un petit peu trop tôt. Mais le conseil de Camille est à garder de côté. Je pense que pour l'instant, il faut d'abord mettre en place un véritable dialogue avec lui. Autre chose que cette mode de fonctionnement qui de toute façon, ne marchait pas. Lâcher prise, ouvrir les portes, trouver un deal et effectivement ensuite l'accompagner sur les conseils de Camille qui me paraissent aussi excellents.
Je vous rappellerai pour vous tenir au courant.
Ça marche. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonne soirée à vous.
Merci.
Au revoir.
Europe 1, 23h, 1h. La Libre Antenne, Sabine Marin.
Ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin. Je vous rappelle que tous les sujets sont abordés sur notre antenne avec sincérité et bienveillance. Vous pouvez bien sûr appeler si vous vous sentez seul, si vous vous sentez mal, si vous avez besoin de parler, si vous êtes coincé dans une situation difficile, que vous avez besoin d'une écoute ou de conseils, les miens ou ceux des auditeurs qui forment cette grande famille qu'est la Libre Antenne. Mais je vous rappelle que vous pouvez aussi nous appeler pour nous raconter des choses formidables, des épisodes de vie étonnants, des rencontres qui vous ont fait grandir, des événements qui vous ont fait voir la vie autrement. C'est toujours intéressant de partager aussi ces expériences-là. Notre numéro de téléphone, vous le connaissez maintenant, c'est le 3921. Amandine et Hassan vous attendent. Et par SMS, vous pouvez à tout moment participer à cette émission en tapant le 73921, précédé du mot nuit.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et c'est Lucie que j'accueille maintenant sur notre libre antenne. Bonsoir Lucie.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue à vous.
Oui, merci. Je suis un peu, un peu angoissée de vous parler.
Pourquoi ?
Mais je trouve que... parce que mon histoire, c'est quelque chose que j'entends rarement à votre radio.
Je vous accueille à bras ouverts, Lucie.
Oui, je sais, je vous entends et je vous trouve vraiment d'une patience extraordinaire. Vous avez un métier ouf, je vous admire.
J'aime profondément les gens et l'humanité, vous savez.
Oui, c'est ce que j'entends, oui, vraiment. Donc voilà, je vais donc parler à Hassan, c'est ça, à chaque fois je me trompe son prénom.
C'est Hassan.
Hassan, c'est ça.
Hassan et Amandine, mes deux petits anges gardiens.
Et Amandine, oui. Alors donc, voilà, il y a pas mal d'années, maintenant évidemment je suis plus très jeune, j'avais surpris une de mes filles, donc j'ai deux filles avec leur père, donc qui est mon mari, qui était puisque j'ai divorcé tout de suite après. Et sur le moment, bon, des gestes vraiment pas sains. Je n'ai pas cru, c'est pas possible. J'étais mère au foyer, je ne travaillais pas, j'allais chercher mes filles à l'école, à l'université, j'étais très présente. Enfin bon,
et vous me dites que vos filles ont été victimes d'attouchement de la part de votre mari, c'est ça ?
Ouf,
plus que ça.
Pardon, vous voyez le
lapsus.
Oui. Oh là là, quelle horreur, plus que d'attouchement, parce que il y a quelques années, j'ai fait une médiation familiale, enfin, pour essayer de voir mes petits-enfants, puisque grandis, je ne les vois pas non plus, et puis pas mes filles hein, non plus. Donc,
quel âge elles avaient à cette époque-là ?
Eh ben, écoutez, c'était ma cadette, l'aînée, maintenant avec les années, je sais que c'est toutes les deux. Ma cadette avait 20 ans quand même. Hein. Donc, j'appelle partout, je me renseigne, j'ai vu des psys, une fois on me dit consentante, une autre fois on me dit non, sous emprise, et puis donc finalement, je sais pas, parce que le contact avec mes filles passe très mal. Et elle m'avait dit, à l'époque où j'ai fait une médiation familiale, les deux sont arrivés à tour de rôle, bon, puisque la personne, je crois que c'est une psychologue aussi qui fait ça. Alors je lui avais dit, voilà, madame, il s'est passé telle chose chez moi, mais je ne veux pas en parler du tout. D'ailleurs, j'avais vu un psy à l'époque, je fais une sacrée dépression, c'était pas possible. J'adorais mes enfants, j'étais très présente. Maintenant, je sais que c'est la nuit, monsieur se levait quand moi je dormais, bref.
En fait, vous en êtes voulu de ne pas vous en être rendu compte, c'est ça ?
Non, je m'en suis pas rendu compte que c'est... Rien que d'en parler, oui, je me sens pas bien. Que cette seule unique fois où j'ai surpris, voilà. Oui. Mais c'était que des gestes et, bon, qui étaient malsains de toute manière, mais et puis en pleine nuit, sur un canapé juste à côté où je dormais, je me suis mise à hurler, c'est pas possible, ma fille m'a pris dans ses bras, non, maman, lui s'est sauvé, non, maman, c'est pas possible. Mais enfin, bon, j'étais dans le dos, j'ai dit non, il se passe quelque chose. Oui. Et donc, par la suite, enfin bon, j'ai porté plainte, il a emmené cette fille en question à la gendarmerie où j'ai porté plainte en pensant de divorcer bon, rapidement parce que de toute manière c'était un homme malsain, même moi je n'étais pas heureuse du tout, il m'en faisait voir de toutes les couleurs. Bon.
Vous ne parlez pas de la plus jeune à ce moment-là, elle était où, c'est la plus petite ?
C'est la plus jeune hein, que j'ai vu surpris.
Ah, c'est la grande, plus jeune. D'accord.
Oui, la grande, ce jour-là, déjà, elle a 2 ans de plus, elle fréquentait un garçon, qu'elle est toujours avec d'ailleurs. Hein. Elle avait découché, je me fâchais, je dis, écoute-moi, j'ai pas été élevée comme ça, on ne couche pas, bon, ma foi.
Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que vous lui avez parlé de cet incident ? Est-ce que vous lui avez demandé si elle avait subi la même chose ?
J'ai pas pu lui demander, madame, parce que, Sabine, parce que...
C'est trop douloureux.
À partir de ce moment-là, mes filles ont dressé un vrai mur. C'était plus possible. Alors, ma généraliste m'a emmenée voir un psy, parce que j'avais appelé ma généraliste en disant... je suis au quatrième étage, docteur, je suis en train d'enjamber mon quatrième. Elle est venue, elle était formidable à l'époque, cette femme. C'est elle qui m'a pas mal aidée et qui m'a dit, bon, vous ne me faites pas ça. Et elle m'a donné l'adresse d'un psy pour que, voilà, j'en parle, que j'évacue. Bon. Et donc, c'était donc ma plus jeune des filles. Et ma fille aînée, ce soir-là, n'était pas là. Elle lui arrivait d'aller chez son compagnon, ma foi, bon, que je ne connaissais pas en plus, ce garçon. Et donc, voilà, bon, ma façon de voir les choses, c'était attention aux garçons, soit bon. Et donc, voilà, alors par la suite, connaissant une petite voisine qui a, lui, subi, qui était presque de mon âge, qui m'a dit, moi, je te crois, j'ai eu le même problème avec mes frères. Donc, voilà, pour avoir tes petits-enfants, avoir, les recevoir, voilà, ne pas être isolé comme je suis, fais une médiation familiale. Tu verras bien si elles viennent, parce qu'elles viennent, c'est sacré mur. Du jour où j'ai fait cette plainte, que le père a emmené une de ses filles, qui a dit c'est pas vrai, les deux. Les gendarmes m'ont appelé, m'ont dit madame, allez voir un psy, ça va pas vous raconter.
Vous n'avez pas obtenu gain de cause, alors, au niveau de la justice?
Pardon, je...
Vous n'avez pas obtenu gain de cause au niveau de la justice?
Non, pas du tout. Ils ont cru mon mari, ma fille, puisqu'elle est arrivée avec le père. Alors, et à l'époque, je ne savais pas que c'était même les deux, c'est avec les années, avec... bon.
Et donc attendez, que je comprenne bien l'histoire, votre mari, du coup, a quitté le domicile, rapidement.
Ah, pardon, à quoi j'entends
votre mari a quitté le domicile?
Ah, ben j'ai divorcé, oui, il
tout
a dû partir, oui, oui.
Et vos filles, à ce moment-là, là. Elles sont restées?
Ah non, bah, mes filles, figurez-vous que, déjà, la cadette avait pris, comme elle est psychologue, hein, je vous dirais en plus, la cadette que j'ai surprise, elle est psychologue, elle a fait des études, elle voulait faire des études de psychologie, donc comme elle sentait peut-être que, mais je les avais encore pas surpris à ce moment-là, elle a demandé à une chambre universitaire à Paris pour pouvoir voilà, aller travailler, faire ses études à Paris, et elle rentrait pour le week-end. Alors bon, moi, toujours bonne maman, j'adore mes enfants, je faisais des plats pour toute la semaine, elle n'a plus qu'à réchauffer, je préparais, je lavais son linge, enfin bon, ce qui est normal pour mes enfants. Mais je ne savais pas pourquoi, je disais, mais pourquoi que tu vas... Je ne connaissais pas cette chambre. Quand une fois, elle me l'a montrée, j'ai dit, attends, moi qui étais maman très soigneuse, maniaque, implique, pourquoi tu vis là-dedans alors que tu peux rentrer le soir? Mais non, tu comprends, je préfère. Bon, moi, maintenant, je pense qu'elle a commencé à se dire, là, il vaut mieux que je m'éloigne. Bon, ma foi, mais je ne savais pas. Je dis, pourquoi tu restes là-bas alors que tu rentres à la maison, tu te douches, tu manges, le repas est fait. Bon, elle voulait rester là-bas. Et le vendredi soir, bizarrement, c'était papa qui l'a ramené. Je lui ai proposé plusieurs fois. Tu veux que, comme d'hab, c'est moi qui les emmène, qui les ramène partout. Tu veux que je vienne te chercher? Non, non, non. Papa travaille sur Paris. C'est lui qui me ramène, ma foi. Jusqu'au jour où, voilà, je tombe sur le poteau rouge, je ne sais pas comment l'appeler. Et donc, voilà, gendarmerie, divorce. C'est ma doctoresse, quand même, généraliste, qui m'a beaucoup aidé. Comment divorcer? Je suis mère au foyer, j'aurai pas de revenus. Vous serez aidé, vous inquiétez pas, je n'ai pas été aidé, mais bon, je me suis débrouillée comme j'ai pu. Bon. Donc, voilà, alors, après, avec le temps, alors, à ce moment-là, elles sont parties chacune à leur tour, même elles sont parties habiter ensemble, je crois. C'était fini. Il y a eu ce mur qui s'est dressé entre nous. Je ne pouvais pas leur en parler. Ce n'était pas possible.
Mais vous aviez mis le doigt sur un sacré malaise, en fait.
Oui, oui, jusqu'à présent, d'ailleurs. Il y a ce sacré. Et puis, ce psy que j'ai vu tout de suite après cette histoire m'avait déjà dit, ne parlait pas beaucoup, mais la seule chose qu'il m'a dit, elles sont dans le déni. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, ne leur en parlez. Plus vous leur en parlerez, si vous leur en parlez, elles vont vous rejeter.
Ben oui.
Je
ne suis pas sûre qu'elle soit dans le déni, mais la majorité des enfants qui ont subi des abus de la part d'un des parents sont dans la culpabilité. Et effectivement, ça peut être une sorte de déni, mais c'est surtout la peur d'en parler. Parce que
oui,
je pense que depuis qu'elles sont petites, il les a manipulées énormément.
Vous avez raison, Sabine.
Il les a manipulées, il les a probablement menacées. Il leur a fait croire.
Il
leur a fait croire probablement qu'en plus elles étaient consentantes, parce que ce sont des gens qui sont extrêmement manipulateurs et très forts pour ça.
Que
c'était de leur faute, que c'est... Exactement, bien sûr.
Oui, c'est ce
et donc,
que
il les a formatés au fil des ans.
Complètement.
Et quand vous arrivez là-dedans comme un chien dans un jeu de quilles, si je puis dire, elles sont en panique. Parce qu'elles sont formatées comme ça, qu'elles n'arrivent pas à sortir de ce schéma-là.
Oui, alors moi, ce psy que je connais comme ça, par hasard, elle m'a envoyé cette doctoresse. La seule chose qu'il m'a dit, il ne m'a pas parlé de ou pas consentante ou dans le déni, il m'a simplement dit, arrêtez, si vous voulez revoir vos filles, à l'époque, elles n'avaient même pas les petits-enfants. Si vous voulez retrouver un contact avec vos enfants, ne leur en parlez plus. Bon, je ne comprenais pas pourquoi, mais je me disais, c'est son métier, il doit savoir ce qu'il me dit. Donc, les rares fois à l'époque où j'avais un contact avec mes filles, C'était le silence, c'était ce mur, on se voyait, mais sans se voir. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, il y avait ce mur. Oui. Moi, je n'osais rien dire, elle non plus. Voilà.
Mais c'est un silence qui pèse tellement lourd.
Oh là là, oh là là, oh là là, à couper au couteau, bref. Donc là, maintenant, ils ont des enfants. Et à ce moment-là, j'ai dit peut-être le fait que je divorce, mais ça, vous voyez bien que je n'étais pas heureuse avec lui, il y avait tout le temps des chamailles, enfin bon. Et même là, la cité où j'habite, il habite aussi, il a retrouvé une petite bonne femme. Mais partout, il raconte qu'elle est folle, elle a dit aux gendarmes que j'ai touché à ses enfants, à mes enfants, ce sont les siens aussi. Et qu'elle, alors, les personnes de mon âge, qui sont dans la cité, quelquefois, ou me rejettent, ou ne me parlent pas, ou sont sur le côté. Jusqu'un jour, j'ai attrapé une dame par le... « Oh, il est charmant, votre mari, madame. » Je n'ai plus de mari, madame. Vous êtes gentille. Ne me parlez pas de mon mari. Il est charmant. Eh bien, écoutez, madame, si vous...
Oui, c'est un beau manipulateur, quoi.
Voilà. Oh là là. Si vous savez comment qu'il a pu, moi, me manipuler à mort pour que je ne voie pas cette histoire. Et à l'époque, tellement que je ne voulais même pas moi qui m'approche, parce que... manipulateur et violeur. Je ne voulais pas. Bon, j'aurais dû partir, mais bon, on n'est pas de ceux qui s'en vont, les gosses sous les bras, j'ai pas été élevée comme ça, bon. Et donc, comment vous dire, alors j'avais demandé à ma généraliste, donnez-moi quelque chose de léger, parce que j'ai besoin de dormir, je dors pas, je n'osais pas lui dire que je ne supportais plus. Elle m'a donné un petit truc léger, et lui, il me disait à chaque fois, le truc était sur ma table, je me disais, si je peux dormir sans, je ne suis pas très très médoc quand je peux m'en passer malgré mon âge, si tu ne prends pas ton cachet, je te viole. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes, et pourquoi tu me violes, je crois, en fait, il avait hâte que je m'endorme pour aller retrouver. Maintenant, avec les années, j'ai gambé.
Vous avez compris le fonctionnement, madame.
Cherchais à comprendre, les campus dehors, on me disait, je disais à ce psy, mais tout le monde me dit dans la ville, il est charmant, ils ne le connaissent pas. Moi, je l'ai surpris, je l'ai vu, ma fille. Mmh. Et il m'a dit, madame, c'est un pervers narcissique qui vous a manipulé, vous aussi. Bon. Donc, quand j'ai fait cette médiation familiale, en me disant, mes filles vont peut-être venir, et ne serait-ce que voir mes petits-enfants, ça me manquait. Et je suis très, très isolée. Je suis dans une cité où les gens... Moi, si on ne vient pas vers moi, je n'insiste pas, mais enfin, je suis très, très, très bon. J'ai dit, j'ai besoin de voir mes petits. Moi, je suis un côté un peu mère poule, n'ayant pas eu de maman qui est morte à ma naissance. Donc, je suis très, très mère poule, j'ai besoin de mes petits-enfants, de mes enfants. Bon. Et c'est impossible, elles ne les ont jamais confiés. Et donc, je fais cette médiation en espérant quelque chose. Et là, bon, ma fille est venue avec son compagnon qui a dit, je m'excuse d'en parler, Sabine, je m'en étouffe. Je vous
prenez le temps, prenez le temps, Lucie, respirez.
Je vous confierai,
tout va bien.
Voilà, je vous confierai. Mon fils de ma fille aînée, je vous confierai jamais, qu'il dit devant la médiatrice, je me tourne vers lui, j'ai dit, mais Arnaud, mais pourquoi?
Oui.
Je me demandais s'il savait quoi que ce soit, mais ça n'avait rien à voir avec moi. Moi, j'adorais mes enfants, j'aurais pas su quoi faire pour elles. Je dis, mais pourquoi je me tourne vers ce bouffé? Je dis, mais pourquoi non, tu me confierais pas tes... Parce que la médiatrice a dit, cette dame a besoin, elle aimerait voir ses petits-enfants, elle ne le voit pas. Bon. Mais moi, je ne lui confirme pas. Je dis, Arnaud, si tu me dis pourquoi, au moins que je comprenne. Ce garçon n'a rien répondu. Bon, niette, ma fille est partie.
Sans vous donner la moindre explication.
Absolument, sans répondre. Et je lui repose la question, Arnaud, j'aimerais que tu me dises pourquoi. Je me dis, soit ma fille lui a parlé de cette histoire et qu'il ne sait pas trop où il en est. Je n'ai pas eu de réponse. Bon. Après, la personne, la dame, a reçu ma fille cadette, celle que justement j'avais, bon, surprise. Et elle lui dit, voilà, votre maman est très isolée, elle n'a pas de famille autour d'elle, elle n'a pas d'amis, elle aimerait bien recevoir ses petits-enfants. Elle ne dit rien. Au bout d'un moment, elle dit et je vous assure que ma fille cadette est une fille très intelligente. Elle a eu son bac avec double mention. Ah oui, elle est... En plus, en étant sous l'emprise du père, je me demande... Enfin, moi, c'est vrai que je les aidais beaucoup au point de vue études. Ma foi, je me disais... Alors que le père disait, une femme, c'est juste bon pour faire la bouffe et s'occuper de son mari. Moi, je dis non, mes enfants vont faire des études, elles vont faire quelque chose d'intéressant dans leur vie. Bon, ce que moi, je n'ai pas pu faire, malheureusement. J'ai eu le marathon, bref. Donc, voilà, bon, j'ai fait de mon mieux, maintenant, bien ou mal, on fait comme toutes les mamans. Et puis, donc, ma fille, donc, cadette, je me dis, elle m'en veut à mort, pourtant, les psychologues, il faut voir comment elle me parle mal, mais vraiment mal. Les rares fois que je peux l'avoir, parce que sinon, je ne vois pas beaucoup au téléphone. Donc, elle est là, et puis elle ne parle pas beaucoup. Au bout d'un moment, elle me dit, oui, je crois qu'elle n'avait que ce garçon qui a maintenant 15 ans, oui, c'est pas récent cette histoire, à l'époque il avait 5 ans peut-être.
Son fils, alors, votre petit-fils.
Donc voilà, le garçon de ma fille cadette, la deuxième. Mm-hmm. Mais c'est toujours celle que j'ai surprise parce que c'est elle avec qui on est le plus elle en conflit. Moi, moi j'accepte tout ce qu'elle me dit en essayant de la comprendre, de l'aider. Bon. Et donc elle me dit oui, mais bien sûr, ma condition que je viens aussi. Bah, j'ai dit écoute, t'habites à quelques kilomètres, 10 kilomètres de chez moi, il ne peut pas venir tout seul, c'est le petit môme. Elle pensait que je venais le prendre, le ramener. J'ai dit mais bien sûr, tu viens, je t'offre un café. Mais elle ne venait plus, je ne les voyais plus. Bon, mais bien sûr. Donc, au bout d'un moment, il faut que je vous explique ça, parce que sinon, il y a beaucoup de personnes qui ne. Enfin, je ne sais pas pourquoi, qui me croient. Vous, j'ai compris que c'était votre métier, que vous le faites très bien. À un moment donné, elle se lève pour partir. Et elle se met à courir vers sa voiture en pleurant et en hurlant. De toute façon, maintenant, mon compagnon, il sait que j'ai couché avec mon père. Boum, elle m'envoie ça comme ça dans la figure.
Ah oui. On dirait que c'est comme un abcès qui se perce d'un coup.
Et elle sanglotait, ma pauvre gamine. Elle, oui. Pourtant, elle avait, maintenant, elle a 40 et quelques années, elle sanglotait. J'ai voulu aller vers elle, j'ai eu un petit malaise, la médiatrice était présente. Asseyez-vous, madame, asseyez-vous, vous allez tomber. J'ai dit, il n'y a que moyen. Si je vais vers elle, qu'on se prend dans les bras, peut-être qu'on va. Eh ben, il n'y a pas eu moyen, j'ai eu un petit malaise. Et j'ai entendu partir, j'ai dit, waouh, cette voiture, elle va s'enverser. Non, non, elle me dit, médiatrice, madame, vous inquiétez pas. Bref, pour la première fois pendant au moins 20 ans, elle a largué cette vérité. Mais elle ne voulait même pas que j'aille les voir, parce que des fois que je dirais quelque chose à son compagnon...
C'est probablement c'était... trop dur pour elle. Elle n'arrive pas à l'assumer du tout.
Et pour moi, je vous assure...
C'est inacceptable, c'est monstrueux ce qui vous a fait vivre. Votre
c'est monstrueux.
Mais est-ce que
monstrueux.
Vous avez pu une seule fois l'affronter, lui dire à lui le mal qu'il a fait à tout le monde? Est-ce que vous lui avez dit ça en face?
Je lui ai dit, lorsqu'il était encore là, il n'était pas parti, donc on lui avait donné 2-3 mois pour trouver un appartement. Je lui ai dit qu'une chose, je lui ai dit, tu m'en as fait de toutes les couleurs. Je peux tourner la page, même pas mes enfants. Et la preuve, c'est que ça fait 20 ans et j'arrive pas à tourner cette page. Donc, alors je lui ai dit, mais pas mes gosses, fallait pas toucher à mes gosses. Il me rit au nez. Il me présente son derrière, je sais pas, bêtement, comme ça il se retourne. J'ai dit vivement que tu partes parce que je vais te tuer avant que tu t'en ailles de la maison. Vivement que tu partes. Alors il est parti, il a fait ses mains, il a enlevé tous les papiers alors que j'avais besoin de mes papiers, de tout ce qui était. J'ai dû galérer je ne sais pas combien pour avoir. Bref, c'est un détail, j'ai galéré en tout et pour tout, comme j'ai toujours galéré avec lui, bref. Et donc, une fois que ma fille m'a envoyé dans la figure, bon, j'ai eu mal au cœur de me dire, mon Dieu, je le ressentais comme ça, si je la prends dans mes bras et que je pleure avec elle, ou en tout cas, moi, je ne pleure plus, il y a belle lurette, je ne peux pas pleurer. Mmh. Au moins, me sentir, la prendre dans mes bras, peut-être qu'elle se dira, ma mère m'en veut pas, ou maman me comprend, enfin, ça n'a pas pu se faire. Donc, voilà, et par la suite, j'ai attendu, je n'ai pas voulu, quelquefois, j'arrive à la voir au téléphone, bon, je n'ai pas pu la voir, et puis, j'ai attendu, je n'ai pas voulu tout de suite embêter, la harceler, écoute, peut-être un mois après. Je l'appelle et puis je dis, écoute, maintenant, on se joue plus la comédie, ma petite fille. Il faudrait qu'on se comprenne, ou même si tu veux pas m'en parler, tu fais ce que tu veux, mais au moins qu'il n'y a pas ce mur entre nous. Ça me fait beaucoup trop souffrir, etc. Et elles savent que je souffre autant qu'elles. Quoi ? Alors, vous savez, le père, a dans toute la cité où nous habitons, je suis la folle. Bon, vous voulez que je fasse ? La doctoresse m'avait dit à l'époque, ne restez pas ici. Il va tout faire pour vous détruire parce que vous avez porté plainte.
C'est son seul moyen de se défendre, en fait, c'est de vous attaquer.
Alors, les petites mamies qui ne veulent pas entendre en plus parler de ça, c'est tellement oulala, elles rejettent ça comme ça. Voilà, je me doute. Il faut voir comment on me rejette. Tant pis, je reste toute seule, je vais faire quelques coups. Et en plus, j'ai le canal lombaire étroit, c'est-à-dire je marche de moins en moins. Bon, ça, et au quatrième étage, sans ascenseur, ça, c'est ma vie, c'est autre chose. Donc, après, au bout d'un moment, j'appelle la cantate à moi, je ne vais pas tout de suite embêter, j'attends qu'elle remette ça. Et elle me dit. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Alors je lui dis simplement, écoute, tu m'as dit ce qu'il y avait à dire. Moi, je sais, je ne me suis jamais trompée. Mais est-ce qu'on peut se voir ? Est-ce qu'on peut se parler ? Est-ce que je peux voir ton petit ? Mais de quoi tu parles ? Mais tu es folle ?
Oui.
J'entends au bout du fil, mais de quoi ?
Elle ne veut pas, elle veut pas, quoi, bien sûr.
Elle ne peut pas, elle ne peut pas. Je crois qu'elle ne pourra jamais. Vous savez, vous l'avez dit, et je vous ai trouvé très bien en vous écoutant souvent le soir. Vous avez dit l'enfance, et je gamberge tellement depuis que je ne sais plus avec moi, que je ne dors plus la nuit, et c'est depuis l'enfance. Parce qu'il y avait tellement longtemps qu'il me faisait ce coup de prendre ton cachet, ou qu'il se levait souvent, soi-disant, allez aux toilettes, tout quoi. Bon, moi, je voulais pas qu'il m'approche, c'était fini. J'ai compris que c'était... Il n'y a que la nuit, j'étais tout le temps avec mes enfants, j'allais les prendre à l'école, partout. Bon, c'était pas possible dans la journée, ni nulle part. Et quand j'allais voir un médecin ou quoi que ce soit, il était au travail. Donc, je sais très bien que c'est la nuit qu'il est...
Lucie, je propose qu'on fasse une petite pause. Prenez un verre d'eau.
Oui.
Respirez.
Oui, bien sûr.
Hein, on s'écoute une petite musique et je vous récupère juste après.
Merci.
Prenez le temps de respirer un petit peu calmement.
Je vous remercie. Oui, rien que d'en parler 20 ans.
C'est pour ça
que
je vous dis. Prenez un verre d'eau, prenez le temps de souffler. Je vous récupère dans quelques minutes. D'accord.
C'est ce que je vais faire. Merci, Sabine.
Je reste là, je vous attends. À tout de suite. Lucie, vous êtes toujours là?
Oui, oui.
Ça va mieux?
Voilà.
Voilà, vous respirez, oui, oui. Vous respirez mieux. Je préfère vous entendre comme ça, quand même, ça me rassure.
Ah oui, oui, ça. Vous voyez, même si je vois un psy, j'en parle, mais après, j'en suis malade à chaque fois. Les années passent, c'est pareil, vous savez. Il y en a qui ont envie de se... Mais moi, je ne veux pas partir de cette vie, parce que malgré que j'ai pas mal de soucis de santé à mon âge, etc., mais... Je voudrais tellement aider mes enfants, je ne sais pas comment. Je voudrais, je ne peux pas, j'y arrive pas.
Cette médiation a été faite quand?
Il y a quelques années, peut-être 5 ans, 4-5 ans.
Et ça n'a absolument rien donné?
Ça a donné qu'elle a, comment on dit, une copine, elle a craché le morceau. Mais bon, moi, elle a dit d'une manière que j'aurais pensé, papa a fait, mais bon, j'ai couché... Bon, ça m'a un petit peu prise comme ça, et puis bon, alors j'ai pas pu, mais j'ai senti comme ça, si je vais vers elle, je la prends tout de suite dans mes bras avant qu'elle s'en aille, et elle courait vers sa voiture, bref, elle est partie.
Je pense que c'est beaucoup trop difficile pour elle. C'est d'une telle violence que j'ai l'impression que c'est comme un volcan, et que si elle bouge d'un millimètre, le volcan va exploser, quoi.
Oui, même j'ai peur pour elle, je vous assure, comme l'une, comme l'autre, hein, parce que je sais que c'est les deux. Et une fois, j'essaie d'en parler avec ma fille aînée, qui a détourné la tête en me disant « Bon, maman, de quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Très évasive. Bon, je me suis dit « On m'a dit pas en parler, ma foi, alors ça ne veut pas. » J'ai peur, justement, de les blesser, de les rentrer dans cette... J'ai peur pour elle, je me dis « C'est tellement grave depuis l'enfance, c'est tellement... » Alors, elles ont des enfants, elles ont une très belle maison, elles ont une est enseignante, l'autre est psychologue. Dieu seul sait ce que maman les a aidées, ça c'est tout à fait mon rôle normal.
Ouais, mais on sent que le terrain est friable en dessous. Hein. Effectivement, j'espère qu'elles se font aider l'une et l'autre, même si l'une est psy, il n'empêche qu'elle a besoin d'aide aussi.
Mais vous savez,
et qu'un jour ou l'autre, ça va ressortir, hein, évidemment.
Moi, je me dis que c'est pas vrai qu'elles sont complètement stables, parce que y a une fois, il y a pas longtemps, bon, il y a quelques mois, on a volé ma voiture juste en bas de chez moi, bon, sur le parking. Comment faire, ne connaissant personne au secours. Ma fille, il faut que j'arrête à l'endroit pour. J'ai porté plainte. Ensuite, on m'avait appelé. Ma voiture était partie tout à fait à l'opposé d'une autre région de parisienne. Donc, on m'a appelé, les flics m'ont appelé pour venir signer un papier comme quoi ils ont. Comment aller là-bas, les taxis? Bon, j'ai vraiment une toute petite retraite par rapport, n'ayant pas de revenus énormes. Donc, bon, j'appelle. Donc, la cadette vient m'emmener, parce qu'elle doit avoir des journées où elle est disponible, enfin, je ne sais pas. Bon, elle vient pour m'emmener, puis en route, elle me dit, bon, le dialogue, évidemment, ne passe pas, elle met la radio, je sais, c'est pas la peine que je parle pour rien, ou alors ça explose, ou alors elle explose, donc rien, quoi que ce soit, ça, c'est pas la peine avec elle. À un moment donné, c'est elle qui baisse qui est à la radio, qui me dit, je sais que tu l'aimes pas. Il ne fallait pas me faire un dessin. J'ai failli lui répondre, parce que toi, tu l'aimes, et puis heureusement, je mords du mal de justesse. Et parce qu'il y a des jours où je suis en pétard avec elle, je peux vous dire. Et je me suis tue, je lui ai dit, écoute, c'est faux, mais je lui ai dit, tu sais, pardon, Samy, j'ai dit, tu sais, c'est pas vrai, mais rien pour lui prouver à quel point j'ai de la haine pour lui. J'ai dit, tu sais, je fais une prière. Je prie pour que, avant de me coucher contre lui, je le maudis. Non, je le maudis en me couchant, je le maudis en me réveillant. Pas mon chat, elle a remis la radio. Bon, le seul dialogue qu'on a eu aller-retour, c'était ça. Oui. Comment peut-elle me demander si je l'aime, ce père?
Mais ce qu'il faut que vous arriviez à comprendre, Lucie, c'est que c'est tellement insupportable pour un enfant, pour des enfants, ce qu'elles ont vécu, que le seul moyen qu'elles ont trouvé inconsciemment, c'est de construire un mur. Le problème, c'est que ce mur, il les a protégées. Et que vous, en essayant d'entrer en contact avec elles, vous voulez casser ce mur. Bien sûr, que ça part d'un bon sentiment de votre part, mais pour elles, ce mur, c'est leur protection. Inconsciente.
Mais
elles peuvent pas y arriver. Elles se sont barricadées complètement pour se protéger de cette agression sexuelle. C'est inconscient.
Et pourquoi envers moi, ça bute ?
C'est pas envers vous.
Pas.
Bah, si, forcément. Bah, parce que vous êtes, c'est normal. Vous êtes la seule personne qui était témoin de ça.
Oui, voilà, on m'a parlé de témoin. Voilà.
Bah, évidemment.
Voilà le seul témoin.
Maintenant,
exactement.
Je vous pose des questions sur ce monsieur. Vous avez connu ses parents, j'imagine, à votre mari ?
Quand je l'ai connu, non. Le papa était déjà décédé. Alors, il est originaire d'Italie. Il m'a emmené au début, avant d'avoir mes enfants, souvent, je vois sa maman, qui est, je peux vous dire qu'une chose, castatrice. Hein.
Bah, j'allais vous demander si vous aviez un peu creusé, parce que quand on est comme ça, c'est qu'il y a eu des blessures dans son enfance à lui aussi. C'est qu'on reproduit souvent des schémas qu'on a connus. Est-ce que vous savez ce qu'il a subi lui-même, enfant ?
Il ne parlait pas. Par contre, la maman venait souvent quand j'ai eu une maison parce qu'ils ont perdu, enfin, elle a perdu l'une de ses filles, un enfant à la naissance. Et puis sa fille d'ailleurs est morte après cette histoire d'accouchement à la naissance. Donc elle venait le jour où j'ai eu ma première fille, elle prenait le train, couchette, elle arrivait direct jusqu'à. Il allait la chercher, elle squattait chez moi, elle avait la chambre où j'avais prévu pour ma fille que j'avais. Et comment vous direz, là, elle avait ma fille tout le temps sur ses genoux, du matin au soir, elle a balancé alors que moi je faisais la bouffe, le ménage, la vaisselle, les courses. Et je disais non, et moi je ne savais pas parler d'italien à l'époque. Non, je ne sais pas bien, quand je vais être seule, expliquez-lui à mon mari. Il ne répondait pas. Comment je vais faire si la petite est habituée à être balancée comme ça sur les genoux toute la journée, enfin bon. Mais elle était, vous savez, si mon mari ne bougeait jamais, que ce soit pour une table, enfin bon, n'en parlons pas, c'est un détail. Et une fois, elle était en train de se raser, elle s'est fait, je ne sais pas, une petite éraflure, mon Dieu, en se rasant. Elle s'est mise à m'appeler, elle est toujours derrière son dos qu'il aille. Elle s'est mise à m'appeler en hurlant, vite, vite, Lucie, cours, il saigne. Je vous assure, j'ai cru que c'était vraiment ouvert le visage ou la main, je ne sais pas. Je cours à la salle de bain. Vous savez, j'étais l'élément fort dans cette maison, partout, avec la grand-mère, avec tout le monde. Je cours dans la salle de bain. Mon Dieu, j'ai dit d'abord une toute petite éraflure, rien du tout. Je lui ai dit, enfin, comme j'ai pu lui expliquer. Et en plus, il a un truc exprès que je lui achète, il met dessus sa cicatrice, c'est rien du tout. Cette maman, elle avait quoi, 70, 75 ans, folle de voir ce petit-là. Alors je me disais dans ma tête, mon Dieu, mais là, il a 45, 50 ans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et aussi bien quand elle venait de passer 3 mois chez nous, elle arrivait dans notre chambre n'importe quelle heure de la nuit, on était couchés, sans frapper. Ah, tu sais, elle disait à son fils, telle chose. Je me disais, j'ai à mon mari, mais tu te rends compte un peu, moi je suis gênée, si jamais tu t'entends. Ah oui, mais ma mère, c'est ma mère.
Bon, d'accord, Lucie, c'est pas vers ça que je voulais aller. En fait, je voulais savoir s'il y a des moyens d'avoir des informations sur ce que lui aurait vécu petit. Est-ce qu'il a des frères et sœurs, par exemple ?
Donc cette sœur qui est décédée est née, donc c'était l'aînée avec qui s'entendait
aujourd'hui,
bien.
Aujourd'hui, il n'y a plus personne ?
Si, il a encore une sœur qui est plus jeune que lui, mais d'après la maman, elle me disait que toujours très jaloux de cette deuxième sœur, donc plus jeune, qui est arrivée un peu plus tard que lui, et que lui, très tard, il a voulu le sein de sa mère, enfin voilà, il était... Et elle me disait qu'une chose, oh, il est d'une jalousie en parlant de son fils. J'ai dit ça, je me suis rendu compte, il fallait pas dire que je...
Est-ce que vous pourriez avoir des contacts avec elle ? Demandez à lui parler au moins une fois.
Elle est décédée.
Ah, elle aussi, je croyais qu'il en restait une plus jeune.
La maman, vous voulez dire ?
Non, avec la sœur.
Ah, la sœur, écoutez, j'ai essayé, mais moi, je suis dans la colère avec toute la famille. J'ai voulu un jour lui dire, parce qu'il doit être surpris, j'étais mignonne quand j'allais en Italie, qu'est-ce qu'elle est gentille, cette fille t'a trouvé, cette dame, machin. Et puis, comment vous dire, elle a changé son numéro, donc je ne sais pas ce qui se passe, je ne peux plus la joindre. Je voulais la joindre au téléphone.
Ça aurait été intéressant de parler avec elle, savoir si elle savait des choses sur son
elle
frère.
Elle ne dit pas, vous savez, elles sont dans un petit village, pas loin de la Toscane, malgré tout, même, je crois, en Toscane. Mais elle ne parle pas des histoires de famille, c'est pas possible, oulala.
J'ai l'impression qu'il y a, il y a des sacrés non-dits de ce côté-là aussi.
Oui.
En héritage transgénérationnel, il y a du lourd dans cette famille. Hein.
Oui, je crois que le père était assez sévère, ben oui, parce que le garçon, donc son seul fils, faisait ce qu'il voulait, il découchait n'importe quelle heure, âge et qu'il n'était pas d'accord avec la maman, cédait tout. Donc, il m'avait simplement dit, ah, mon père était très sévère avec moi. Bah, quand il m'expliquait le pourquoi, le comment, j'ai dit, comme à l'école, il était incapable de tenir un stylo, il n'a jamais voulu aller à l'école. J'ai dit, t'es bien le seul garçon qui tape du pied, qui dit, j'irai jamais à l'école. Il prenait de ses coups de pied, il me disait, du père, pour qu'il aille à l'école. Et il n'y allait pas. Donc, il s'est têtu par rapport au père, je ne sais pas, il tenait tête à son père, allez savoir.
En tout cas, ce que j'entends, Lucie, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de colère encore en vous. Et ça, ça serait bien que ça sorte, parce que vous savez que la colère, c'est à soi qu'on fait du mal quand on est en colère.
Beaucoup de peine.
Bien avant de faire du mal aux autres, avec la colère, on se fait du mal à soi-même. Est-ce que vous voyez encore quelqu'un en ce moment ?
Alors, je vais vous expliquer, c'est qu'avec le temps, moi, les psys, bon, je fais un psycho, c'est comme un mur, je vais les voir, ils sont assis, ils vous regardent pendant une demi-heure, 20 minutes, sans un mot, 1 an, 6 mois, et je finis par leur dire, écoutez, si vous, moi, je parle facilement, bon, si j'ai tout dit de haut, tout ce que j'ai pu vous dire, et si vous ne répondez jamais, des murs, j'en ai, voilà, je m'en vais en disant, des murs, j'en ai chez moi, c'est pas la peine que je vais payer pour voir.
J'ai eu cette conversation avec quelqu'un hier soir aussi, vous avez choisi un psychiatre, alors ?
C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est ma doctoresse, mon intendant, c'est elle qui m'a dit allez le voir, faites-vous aider. Bon,
oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs sortes de thérapies et que vous avez besoin d'une thérapie qui soit dans l'échange et dans le dialogue, donc peut-être plus une psychothérapeute ou une psychologue qu'une psychiatre.
Absolument. Donc actuellement, je vois. Donc c'est ce psy qui m'a. Je lui ai posé la question parce qu'à l'époque, bon, je n'ai plus cette amie, j'ai plus de nouvelles. Elle m'avait dit avoir eu un problème d'un enfant, enfin qu'elle avait perdu dans son ventre. Et elle avait fait du MDR. Elle m'avait
voilà,
dit.
Voilà, j'y venais. Le MDR, parce que vous avez vraiment vécu un traumatisme profond qui est toujours là.
Donc il m'a. Pardon.
Vous avez vécu un traumatisme profond qui est toujours là, ce que j'entends. Oui. Donc c'est ça la priorité maintenant, c'est de travailler là-dessus.
Vous savez, tant que ça ne passe pas avec mes enfants, j'aime mes enfants, j'ai beaucoup de peine, j'en souffre beaucoup. Donc, si à la limite, ça pouvait se passer comme si de rien n'était, je veux bien faire comme si de rien n'était, mais elles veulent pas. Donc, non. Comment vous dire ? Donc, finalement, ce psy m'a envoyé, je vais parler de cette amie qui a fait l'AMDR et à qui ça l'avait réussi. Mm-hmm. Il me dit, oui, tout d'un coup, d'accord. Il me donne une adresse en disant, bon, c'est mieux que de chercher comme ça dans un bottin, bêtement. Et donc, ça fait 2-3 fois que je la vois. Une première fois, elle essaie de passer sa voix comme ça devant mes yeux. Mmh. Je ne sais pas pourquoi, le peu, je lui ai dit, elle m'a dit, vous êtes très courageuse, madame. Bon, j'ai écouté. Mais le problème, c'est que depuis à peu près une dizaine d'années, voilà, je lui demande, je ne peux pas se voir, même si elle voulait m'emmener. Ma fille m'a dit, ça s'appelle le syndrome de Dieu. Je ne sais pas jeter des choses dont je n'ai plus besoin.
Mais attendez, Lucie, ça devient confus. Là, quel rapport entre le psy, le MDR et le fait que vous ne pouvez rien jeter ?
Alors, le psy, c'est lui qui m'envoie chez cette psychologue faire du MDR.
Est-ce que ça vous fait du bien, le MDR ?
Ben, il n'y a pas longtemps que je la vois. Ça fait peut-être la troisième fois. Mais c'est, pour l'instant, je ne fais que... En fait, elle répond. C'est quelqu'un qui a du contact, qui parle, qui répond.
D'accord.
Elle me dit, j'aime les gens. J'ai dit, c'est important. Déjà, ça me permet de pouvoir...
Non, puis vraiment, le MDR permet de travailler sur un traumatisme. Et chez vous, c'est extrêmement important de travailler là-dessus. Maintenant, je vous ai dit, vous ne pouvez pas forcer la porte de vos filles. Pour l'instant, c'est impossible pour elles. Tout ce que je vous conseillerais de faire, c'est peut-être de leur écrire. En leur disant les choses vraiment, en disant les choses avec des mots. Je sais, voilà ce qui s'est passé. Sachez que je suis là et que le jour où vous voudrez en parler, je serai là.
Elle m'a accroché, parce que les rares fois...
Non, par courrier, c'est pour ça que je vous dis écrivez-leur.
Ah oui, écrivez-leur. Parce que les rares fois, c'est au téléphone, mais bon...
C'est pas la peine de forcer la porte, Lucie. Elles ne peuvent pas pour l'instant, c'est beaucoup trop difficile pour elles, c'est trop douloureux.
Oui, oui.
Donc la priorité, c'est de vous travailler sur votre traumatisme pour pouvoir vous apaiser.
Voilà,
et elle,
voilà.
Simplement de leur dire, voilà, il y a une porte qui est ouverte, moi je ne la prends plus, mais sachez qu'elle est ouverte et que je suis là.
Oui,
il y a
oui.
forcément un jour où ça va remonter, où elles reviendront vers vous.
Ma fille cadette m'a dit il n'y a pas très longtemps, peut-être un an, je l'avais appelée pour ça. Ben, je les appelle régulièrement pour leurs anniversaires, elles savent, elles répondent. Elle m'a dit qu'une chose, il n'y a pas très longtemps, moi un an, elle m'a dit, mais je sais que tu nous aimes, maman. Et moi, je reste comme une imbécile avec le téléphone à mon oreille en me disant, mais alors, ma fille.
C'est trop difficile pour elles maintenant, elles ne peuvent pas.
Lâchez
prise de ce côté-là, parce que ça ne servira à rien, ça ne marche pas. Elles ont besoin de ce mur pour l'instant pour se protéger. Ça durera ce que ça durera, il y aura certainement un événement un jour qui fera qu'elles travailleront sur elles et qu'elles casseront ce mur pour revenir vers vous. Pour l'instant, c'est trop difficile pour elles.
Mais vous savez, Sabine...
Vous avez besoin d'aide ici, vraiment.
Oui, oui, oui.
Continuez le MDR, c'est extrêmement important.
J'espère que ça va vous aider.
Et si ça ne suffit pas, faites quelques séances d'hypnose pour travailler sur le traumatisme et sur l'apaisement, vraiment.
Je ne sais pas si cette personne... personne fait ça, par contre, l'hypnose.
Demandez-lui,
cas,
souvent, bon, les gens qui pratiquent le MDR font l'hypnose,
oui,
aussi, ou elle connaît,
oui,
peut-être,
oui,
un bon praticien là où vous êtes.
En tout cas, là, pour l'instant, elle me paraît assez sympa. Elle n'est pas hermétique comme voilà, c'est ce que j'ai vu qui était là à me regarder. Donc, elle a l'air bien, ma foi. J'espère que ça... Ma foi, je commence à douter en me disant, et après, les psy, est-ce que ça va m'aider? Mais je dis, j'en ai assez de ce... Voilà, j'accumule chez moi maintenant, malheureusement, depuis quelques années, c'est ça.
Alors ça aussi, vous pourriez travailler là-dessus en hypnose.
Ah, mais je lui ai dit, j'ai besoin. Parce que si je vide un peu... d'abord, je peux presque plus monter mes catétages.
Il faut comprendre quelle est la peur là derrière. Quelle est la peur qui se cache derrière tout ça? Derrière ce besoin de tout stocker?
Moi, je crois que c'est l'histoire de mes enfants. Comme je ne peux pas...
Combler un vide.
Hein. Mes enfants et mes petits-enfants, je suis tellement... Cette cité, on me rejette comme si j'étais... C'est vraiment que j'étais... Ce que j'ai fait, c'est grave. On a même dit, elle a un amant pour se débarrasser de son ami. Puis depuis tant d'années, personne ne me voit avec aucun... Enfin, tellement que c'est
débile. Mais Lucie, vous connaissez la vérité, alors laissez dire les autres. Vous savez, les gens jugent toujours sans savoir.
Bien sûr, Sabine. Mais vous savez, d'être seule, je prends de l'âge et des problèmes de santé. Et toujours isolée, c'est... Voilà, c'est dur. Par moments, c'est très dur.
Mais
voilà.
J'entends bien que c'est difficile.
Si je tombe sur une personne qui écoute et qui peut m'aider, voilà. Donc, je vais voir cette personne. J'espère que ça va marcher avec elle.
Je vous le souhaite aussi. Puis vraiment, lâchez prise pour l'instant. Ne vous culpabilisez pas. Ça n'est pas de votre ressort, c'est du leur à vos filles. Pour l'instant, elles ont besoin de se barricader. Ça va pas mettre tenir debout.
Je me culpabilise, ça bine beaucoup.
Ben, je sais bien.
Comment, tant d'années, je n'ai rien vu. Elle avait 20 ans lorsque je l'ai surprise.
Parce que ces gens-là sont des gros manipulateurs et qui sont très doués. Vous n'êtes pas la seule, vous savez, il y a plein de familles chez qui ça arrive et on ne voit rien.
Dori, qu'on ne doit pas dire à l'antenne, c'est que quand mes filles sont parties après habiter ensemble, dès que je suis l'histoire, je ne voyais plus mes filles, elles ont disparu. Enfin, disparu, je savais où elles habitaient, je suis allée une fois les voir, bon. Mais j'avais une petite chaîne que j'avais amenée pour mes enfants, mais c'était moi qui m'en occupais, qui la sortais. Il a mis cette petite chaîne dans son pyjama. Une nuit, je me suis levée pour boire. Je l'ai trouvée que cette chaîne. J'ai cru devenir cinglée. C'est pour ça que ma doctoresse m'a dit, je vais vous envoyer chez un psy. Vous, c'est pas possible. Vous allez me faire un sale coup. J'ai dit, mais à ce point, tu es fou. Mais à ce point, tu es dingue.
Mais c'est un malade, bien sûr. Il est malade.
Un grand malade. Ah, oui, ah, oui,
évidemment.
Ah, oui.
Enfin, Lucie, je suis désolée. J'ai Louisette qui aimerait bien qu'on puisse discuter un petit peu avant que l'émission se termine, qui est en attente depuis un petit moment.
Je vous remercie, Sabine.
Je vais être obligée de vous laisser. Prenez vraiment soin de vous avec le MDR, peut-être avec l'hypnose. Enlevez cette culpabilité-là, s'il vous plaît.
Ah oui, vous avez compris. Et moi aussi, je culpabilise. Oui.
Laissez faire vos filles. Et bien un jour, elles vont avancer elles-mêmes sur ce chemin-là.
Mais vous savez, le psy me l'a dit plusieurs fois, je voudrais voir vos filles. J'ai dit, mais docteur, je ne peux pas leur
dire... Non. Ça, c'est un chemin qu'elles font elles-mêmes. Elles iront trouver des psys de leur côté.
Voilà.
Et un jour,
voilà,
le mur tombera, vous verrez.
Oui, mais j'ai peur qu'elle tombe aussi, vous voyez. C'est ça mon souci maintenant. J'ai peur qu'elle tombe aussi, d'avoir tellement gardé ça, tellement d'années.
Eh bien, elles travailleront, elles se font aider à ce moment-là pour traverser ce traumatisme-là
voilà,
aussi.
J'espère, Sabine, de tout mon cœur. Merci beaucoup.
Je vous souhaite le meilleur, Lucie, maintenant. Je vous embrasse très très fort.
Merci, bonsoir.
Prenez
Sabine.
Bien soin de vous, au revoir.
La Libre Antenne, 23h, 1h, sur Europe 1.
Bonsoir Louisette.
Bonsoir Sabine, merci de m'écouter.
J'ai réussi à vous sauvegarder un petit moment avant que l'émission se termine.
Vous êtes très gentille. Voilà Sabine, moi je dois m'adapter à une vie ratée.
Oh là, qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, écoutez, j'ai 73 ans, j'ai eu un kyste au cervelet, j'avais 8 ans et demi.
Vous avez 73 ans, vous avez une voix toute jeune.
Merci.
Mais c'est vrai.
Bon, alors je n'ai pas été aidée, sauf que j'ai fait une analyse pendant très longtemps avec un psychiatre et j'ai fait un transfert extraordinaire, mais je n'ai pas pu lui dire. Alors donc j'ai passé des années sur un divan et j'ai raté mon analyse. Voilà.
Attendez, vous allez un peu vite pour moi là. Ce kyste au cervelet, qu'est-ce qu'il a eu comme conséquence?
Une atrophie des nerfs optiques et puis j'ai un problème d'équilibre.
D'accord. Donc, visuellement, vous en êtes où concrètement?
Alors, donc maintenant, je suis voyante, mais j'arrive toujours à lire en gros caractère. Si je n'avais pas mes lectures pour me sauver la vie, ma vie, elle serait vraiment nulle. Je lis Alexandre Julien, Le métier d'homme, c'est une merveille.
Oui.
Ça me donne un courage. Mais bon, lui, à sa naissance, sa mère lui a dit qu'elle l'acceptait tel qu'il était. Moi, je n'ai pas été acceptée.
C'est-à-dire? Vous aviez 7-8 ans quand c'est arrivé, c'est ça?
Oui, oui.
Et qui est-ce qui ne vous a pas accepté?
Ma mère, ma famille, je serais née un peu. J'ai du mal à savoir le pourquoi, ce qui s'est passé dans ma famille. Ma mère a divorcé, j'avais 3 ans.
Oui.
Alors voilà, je ne connais pas ma vérité, c'est pour ça, quand je vous écoute, on ne veut pas me dire ce qui s'est passé.
Ce qui s'est passé, c'est-à-dire avant cet accident, avant cette maladie ou après?
Voilà. Oui. Il y a un mystère dans cette famille. Voilà.
Oui.
Tout est là. Alors donc, je ne vis qu'avec des suppositions.
C'est-à-dire, vous supposez quoi?
Ben je suppose que mon père de nom n'est pas mon père.
Oui.
Voilà. Mais faire dire. Alors donc, avec mon frère, ça va mieux parce que c'est moi qui veux que ça aille mieux. Mais autrement, bon, là, en décembre dernier, j'ai décédé. Par contre, depuis que je me suis occupée de ma mère, parce que c'est moi qui me suis occupée de ma mère dans sa fin de vie, tout le monde, maintenant, on me dit bonjour. On prend de mes nouvelles. Avant, j'ai été rejetée.
Mais j'ai un peu de mal à comprendre où vous êtes. Pourquoi est-ce que vous m'appelez ce soir? En quoi je peux vous aider?
Parce que, voilà, quand je vous entends parler de votre... je voudrais, dans mon département, essayer un bon thérapeute. Voilà. Parce que je cherche et puis je ne trouve pas.
Oui, alors ça, c'est délicat. Je ne suis pas là pour donner des noms de thérapeutes à l'antenne.
Non, mais la forme, parce que le j'ai essayé le DMR.
Le MDR, oui.
Le MDR, et ça me convient pas avec l'atrophie des nerfs.
C'est ce que j'allais vous dire, c'est pas tout à fait conseillé pour quelqu'un qui a ce souci-là.
Voilà.
Qu'est-ce que vous aimeriez essayer comme thérapie?
Eh bien, écoutez, je vous fais confiance parce que je vous écoute, moi j'apprends beaucoup et c'est extraordinaire.
C'est gentil. Qu'est-ce que vous aimeriez travailler? En quoi une thérapie peut vous aider à avancer? Sur quel domaine?
Oh ben parce que je suis très émotive.
Oui.
Parce que et puis ce que vous dites là, accepter, ben c'est pas facile pour moi.
Oh, pour personne. Voilà. Si seulement il y avait un bouton accepter, on serait toutes contentes de l'avoir.
Qu'est-ce que ce serait bien, effectivement.
Un bouton accepter et un bouton effacer, ce serait plutôt pas mal.
Oh, ce serait merveilleux, oui.
Il va falloir qu'on en parle là-haut parce que ça ne s'organise pas bien cette histoire.
Parce que j'ai raté ma vie, j'ai des amis, bon, à son grand-mère, moi je ne suis rien, j'ai raté ma vie, j'ai tout, voilà.
Louisette, arrêtez d'être aussi dure avec vous-même. Plus vous vous dites ça, plus vous vous faites du mal.
Mais oui, je vous écoute et j'essaie de mettre en pratique ce que vous dites, mais voilà. Voilà.
C'est pas évident, je sais bien, mais vous n'avez pas raté votre vie. Vous êtes vous. Vous avez vécu une vie qui est une vie qui n'est pas comme celle des autres.
Oui.
C'est la vôtre.
Alors, oui, parce que je suis allée en centre de rééducation.
Visuel.
Visuel.
Oui.
Et puis du fait que moi je n'étais pas grand-mère, que je n'avais pas d'homme dans ma vie, je me suis fait complètement rejeter. Hein.
Je vois pas bien le rapport. On rééduque pas que les gens qui ont un homme dans leur vie, c'est bizarre.
Non, mais je parle au niveau des patients. Alors je n'ai pas su me faire accepter avec ça. Alors donc ça a été très difficile. Voilà.
Et est-ce que vous auriez envie de rencontrer quelqu'un?
J'aimerais bien partager la tendresse, c'est quand même important dans une vie.
Bien sûr. Voilà. On peut peut-être lancer un appel, Louisette. On ne sait jamais s'il y a un monsieur sympathique dans votre coin, ne serait-ce qu'en amitié, qui pourrait échanger, parler avec vous. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui est plutôt gentil, qui a un grand cœur.
Non, mais parce que ça, j'ai appris à écouter, hein. Justement, avec tout le travail que j'ai fait, malgré tout, on vient me confier, les gens viennent me confier leurs problèmes, c'est sûr.
On ne sait jamais, Louisette, si...
Moi, j'en parle peu de tout ça, des miens.
Ça vous ferait du bien d'en parler quand même.
Oui, c'est pour ça que je venais vers vous. Parce que quelle est votre formation exactement? Est-ce que je pourrais trouver ça dans ma région?
Dans quelle région êtes-vous?
La Touraine.
La Touraine.
Ok. Moi, je suis hypnothérapeute, donc je pratique l'hypnose thérapeutique. Écoutez, on va se mettre en contact sur ma page Facebook, si vous le voulez bien.
Vous savez pas le faire ? Je ne sais pas le faire. Vous voyez, voilà, on parle d'une difficulté, c'est que je suis incapable de faire un SMS.
D'accord.
Alors, c'est, tout ça, ça me gêne. Tout est une question de temps avec moi.
Et personne ne pourrait vous aider à écrire un message de votre part ?
Ah ben si, je pourrais trouver, oui, j'ai toujours peur d'être ridicule, voilà. Alors parce que je prends beaucoup de patience aux gens, moi.
Mais oui, mais les gens peuvent avoir de la patience pour vous aussi, Louisette, non ? J'ai l'impression que vous avez peur de prendre votre place, vous avez peur de déranger, vous n'osez pas.
Ah ben tout à fait. Hein,
j'entends ça, votre toute petite voix qui ose à peine s'installer ici. Mais oui, mais vous existez, vous avez le droit de prendre votre place, comme tout le monde. Il n'y a aucune raison. Hein.
Oui, mais parce que ce centre de rééducation, j'ai trouvé une psychomotricienne avec qui c'était merveilleux. Mais avec l'ergothérapeute, ça s'est très très mal passé.
Bah, laissez tomber les gens qui ne vous font pas de bien. Hein.
Oui, mais alors donc, la psychomotricienne, là, j'ai pris conscience de mon corps. Ce corps que je niais, qui n'avait pas le droit de s'exprimer.
Ben oui, c'est ça. Bon, Louisette, je ne peux pas vous laisser pleurer comme ça, donc vraiment, à titre exceptionnel, je vais récupérer hors antenne votre téléphone tout à l'heure et je vous laisserai un message. Comme vous ne pouvez pas lire et vous ne pouvez pas accéder à ma page Facebook, je ne peux pas vous laisser en détresse comme ça.
Par contre, je lis en gros caractères.
Oui, mais sur une page Facebook, ce n'est pas écrit en gros caractères, donc vous n'allez pas y arriver et vous n'allez pas pouvoir me contacter, m'envoyer un message. Donc exceptionnellement, c'est moi qui vais revenir vers vous, d'accord ?
Vous êtes très gentille.
Essayer de vous orienter vers des thérapeutes dans votre région qui pourront vous aider.
Merci beaucoup.
D'accord, je vais faire ça.
Je vous embrasse, Sabine, et merci, vous avez un métier extraordinaire.
Merci à vous, Louisette.
Merci de votre humanité.
Séchez vos larmes, s'il vous plaît. Je vous embrasse. Je vous envoie un message.
Merci.
À bientôt. Et c'est Margot maintenant que je vais accueillir pour terminer cette émission. Bonsoir à vous, Margot.
Oui, bonsoir.
On n'a pas beaucoup de temps, mais je crois que vous avez un petit message sympathique à passer.
Voilà, j'ai un petit message très court et léger et dans la générosité.
Ça va nous faire du... Je prends tout de suite.
Bon, voilà, j'ai un petit fils qui avait 6 ans l'année dernière et sa chambre est pleine de jouets. Je trouve ça quasiment indécent. Et donc, j'avais demandé à sa maman si elle était d'accord pour que je donne des jouets à l'hôpital. Et la maman m'a dit, non, tu sais, ils s'amusent avec tous ces jouets. Donc, comme j'ai la suite dans les idées, cette année, j'ai cherché une idée. Et j'ai trouvé l'idée de faire l'inverse d'un calendrier de l'Avent. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit lui qui aille chercher une petite chose chaque jour dans son calendrier de l'Avent, ce qui est possible qu'il fasse, je lui ai proposé de mettre dans une boîte chaque jour un petit jouet et puis le soir de Noël, on ira le porter à un enfant.
Alors c'est amusant parce que c'est quelque chose dont j'ai parlé à l'antenne il y a une semaine, ce qu'on appelle le calendrier de l'Avent à l'envers.
Ah ben voilà.
Comme quoi les grands esprits se retrouvent.
Bon, c'est beaucoup dire.
Je suis tombée sur, je ne sais plus comment j'ai découvert ça il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai trouvé l'idée tellement jolie.
Mais moi aussi, j'ai trouvé ça adorable pour un enfant. J'ai bien sûr demandé l'autorisation aux parents pour mettre ça en route. Mm-hmm. Mais je vais faire ça chaque jour. Enfin, je ne sais pas comment c'est parce que je n'ai pas vu mon petit-fils. Mais il était d'accord. Chaque jour, on va mettre un petit jouet quelque part.
Concrètement, comment vous faites avec un petit jouet ? Parce que moi, mon idée n'était pas la même pour les adultes. Je vous en reparlerai après. Mais comment vous faites ça pour un enfant ? Vous mettez le jouet dans quoi ?
Eh bien, je vais mettre un jouet dans une jolie boîte que je vais lui faire décorer.
Ah, donc ça fera 24 cadeaux, en fait.
Voilà, ça fera 24 cadeaux, mais je pense que c'est pas des choses énormes, quoi, des petites voitures, des choses comme ça. Et puis, je suis allée repérer dans la rue une maman qui n'aura peut-être pas son enfant avec elle, mais j'essaierai de la retrouver le soir de Noël.
Oui, mais ça fera un cadeau, ça ne fera pas 24. Comment vous allez faire pour distribuer 24 cadeaux ?
Ah non, mais je veux donner un seul à un enfant.
Ah, tous les petits cadeaux à un seul enfant. Ah, d'accord. Ok.
Oui, je donnais la boîte à un enfant.
Et votre fille, qu'est-ce qu'elle en dit de ça, du coup ?
Bon, elle n'a pas été très émue.
Elle a trouvé que vous étiez têtu, non? Elle n'a pas lâché prise là-dessus?
Non, elle n'a pas...
Elle n'adhère pas plus que ça?
Non, elle n'a pas trouvé ça. Elle n'a pas été enthousiaste, quoi. Moi, j'ai trouvé l'idée vraiment jolie.
Ah, moi, je vous avoue que j'ai adoré l'idée. C'est vrai que je n'y avais pas pensé pour les enfants. En fait, ce que j'avais proposé, c'était pour les adultes, notamment pour les gens qui sont dans la rue, c'est de préparer un petit panier ou une petite boîte à chaussures ou un contenant. Voilà, dans lequel tous les jours, on met un objet, échantillon de crème de soins, savon, gel douche, tout ce qui peut aider des gens qui sont dans le besoin. Pour faire une petite boîte de premier usage sympathique comme ça. Voilà, et le 24, l'offrir à quelqu'un qui est dans la rue, qui est dans le besoin. Mmh. J'aimais bien cette version des choses. Ouh là, j'entends le jingle de l'émission qui se termine. Merci Margot. Merci Margot pour ce témoignage.
Merci à vous, Sabine. Merci.
Je vous embrasse. Merci vous aussi. Merci à vous Margot, merci à Louisette, à Camille, à Lucie, à Séverine, à Marlène et à vous tous qui avez participé à cette émission par SMS. Il est presque 1h du matin, nous allons devoir nous quitter. Demain soir, c'est Sophie Peters que vous retrouvez à ce micro, Sophie qui vous accompagnera jusqu'à jeudi prochain. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi à partir de 22h30 et je vous quitte avec cette citation de Deepak Chopra. « Chaque fois que vous êtes tenté de réagir de la même manière que d'habitude, demandez-vous si vous voulez être prisonnier du passé ou être l'un des pionniers de l'avenir. » Je vous laisse méditer sur cette citation. Bonne nuit et à vendredi prochain.